Historiquement, le jazz a toujours, en tout cas, le jazz français a toujours fait des, tu sais, genre tu regardais les pochettes, et c'était éclaté au sol.
Okay. Oui, il y a une évolution dans les mentalités, et moi je dirais qu'il y a plus une évolution dans la commercialisation du jazz aujourd'hui.
Ah, okay.
Plus, parce que en fait, c'est devenu un business à part entière, tu vois. Et surtout en France,
ça suffit plus de savoir bien jouer.
Ouais. Ça c'est bien et dommage en même temps.
Il faut faire des stories Instagram, c'est ça que t'es en train de dire par exemple?
Bah bien sûr,
ouais.
Ok.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous, je suis avec Daz, évidemment.
Bonjour Salman, comment vas-tu?
Ça va très très bien, après... Cet épisode magnifique qu'on a sorti autour de, tu sais, du matériel, la technique du live, etc.
Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Putain, je mélange tous les trucs
en ce moment.
Ouais, ouais, bien sûr, oui.
Et Daz, aujourd'hui.
Du live course. Encore? De la technique?
Alors de la technique, oui, certainement, parce qu'on est avec des super musiciens.
Ouais, la technique humaine cette fois-ci.
Mais on va parler d'une esthétique dont on traite assez peu dans l'émission, pas assez en tout cas, puisque c'est du jazz dont on va parler aujourd'hui. On a la chance d'avoir un bête de
photo. On a un vinyle, un seul. Notez bien.
C'est vrai. Shame. Shame pour tout de suite. C'est ceux qui
parce que les gens ne savent pas que après hors plateau, on est obligé de se battre pour récupérer le matos. Donc là, bon, bah, c'est moi qui ai la platine en ce moment. Donc
écoute,
voilà.
On peut s'arranger.
Bah oui.
Oui. On peut faire du.
Merci.
On peut se prêter, tu sais, faire une garde partagée. Un truc
c'est
comme
vrai.
Ça,
on peut faire ça aussi. On peut faire ça aussi. Et alors, en parlant de garde partagée,
oui.
Justement.
Bah bon.
Un plateau partagé.
Plateau partagé. Tu montrais le vinyle. On est avec Anne Passeo.
Ça va et toi?
Bienvenue. On est hyper content de te recevoir. On va présenter chacun, mais on fait quand même rapidement le petit tour. On est aussi avec Tis Rodriguez.
Salut.
Bonjour Tis. Bienvenue.
Bonjour.
Quelle voix de radio Tis. Oh là là.
Pareil.
Ouais. Hein. Adrien.
Salut.
On est avec Adrien Soleiman aussi qui est avec nous. Bon.
Bienvenue à tous les trois.
Merci les amis.
C'est la crème
plateau,
de la crème.
Ouais, un plateau de haute qualité.
Ouais, hein. Carrément. Bah, je vais quand même rapidement dire un mot un peu sur chacun. Allez Adrien qui était le dernier à dire bonjour. Adrien, t'es saxophoniste?
Tout à fait, de formation, ouais. Mon premier instrument.
Mais oui, bon en fait oui tu dis ça parce que tu fais plein d'autres choses à côté. Tu composes, producteur, arrangeur, directeur musical. C'est pas que le saxophone mais ça reste quand même ton instrument effectivement de prédilection.
Tout à fait.
Formé au jazz?
Ouais, au jazz ouais.
Ouais. Tu te dis que c'est un atout?
Est-ce que c'est un atout dans la vie de tous les jours, dans mon travail clairement ouais. Ouais. De par l'apprentissage de la musique d'une manière assez studieuse et sérieuse.
Ouais.
C'est sûr que moi j'évolue plus dans la musique actuelle, pop. C'est sûr qu'on part avec un petit avantage. Après c'est d'autres codes aussi, faut savoir se glisser dedans. Ouais. Tous les jazzmen n'y arrivent pas.
Ouais, ce que tu dis c'est très vrai, c'est que tu navigues en fait depuis pas mal d'années entre différents univers, dans de l'hybridation, notamment dans un univers pop. Alors, cette curiosité, cette appétence pour d'autres esthétiques, on le voit dans tes collaborations, évidemment, parce que t'as produit, par exemple, le dernier Philippe Catherine, Zouzou. C'était aux côtés de Victor Lemann, d'ailleurs.
Tous les deux avec Victor.
Ouais, qui a fait la musique des JO, Daz. Ouais. T'étais impliqué, d'ailleurs, aussi dans la musique des JO?
J'ai joué dans le big band des JO.
Ouais, ouais, trop bien.
La musique, on parle du thème de Jurassic Park, qui n'était pas le thème de Jurassic Park, on parle de celui-là.
C'est ça. Entre autres, il a fait plein d'autres trucs.
Très bien.
Oui, il y avait ça, effectivement.
Ça reste en tête, en tout cas. Bravo.
On t'a vu aussi aux côtés de Juliette Armanet. Avec notre ami Nit, notamment, qu'on salue.
Qu'on a reçu. Salut Nit.
Absolument. Malik Djoudi, Alain Chamfort, bon, il y en a plein. Et cette polyvalence, on la trouve aussi dans tes projets solo. Il y avait eu notamment en 2016 un premier album, Brie, ouais. Qui lui était clairement plus axé électropop, ça te va comme terme.
Je chantais surtout.
Et tu chantais en plus.
Ouais. C'était pas instrumental.
Ouais.
Oh ouais, c'était il y a 10 ans. Ouais.
Et puis derrière, c'est marrant, t'es revenu avec deux albums relativement récents, qui sont les Bell Jazz Club,
ouais.
Le volume 1, le volume 2, où là tu reviens à une esthétique plus jazz. Où vraiment l'idée c'était de réunir plein de musiciens autour du partage, à la fois des mélodies pop, mais quand même on reste dans une forme plus jazz quand même.
Ouais, une façon de faire de la musique plus jazz, ouais, c'est-à-dire ouais. Voilà, on était nombreux, on était 8, ouais. Et d'enregistrer tout en live, donc la musique instrumentale, mais il y a aussi des invités ouais. Comme Allo Mode ou Arthur Teboul de Chatterton. Ouais. Et dans la philosophie, oui, jazz, parce que c'est une musique plus ouverte, avec des parties improvisées. Ouais. C'est peut-être ça ce qui définit
caractérise,
plus
ouais.
Le jazz.
Freestyle.
Et voilà. Mais bon, demain, peut-être je ferai un album de musette, j'en sais rien. C'est ça qui est cool, on peut essayer de faire ce qu'on veut le plus possible.
Trop bien. Bon, j'enchaîne. Anne Passeo, Anne. Bah, Anne, t'es une grande batteuse. Talent unanimement salué. T'es formé toi aussi au jazz initialement.
Ouais.
Mais comme Adrien d'ailleurs, tu chantes aussi. Tu composes. T'es hyper productive. Daz, ton premier album 2008, c'est ça?
2008.
Depuis, ça ne me rajeunit pas, ça.
Depuis, elle a sorti 8 albums. 4 EP. Okay. C'est un truc auquel tu tiens, ce côté avoir des projets très réguliers, bah, au moins tous les 2 ans, un nouvel album, à peu près?
Alors, je sais pas. En fait, je fais des disques quand j'estime que j'ai la matière pour faire un disque, mais je me dis pas, tiens.
Ça fait longtemps.
Je refais un disque dans 2 ans, ou je sais que par exemple, entre mon 3e et 4e album, il s'est passé 4 ans quand même. Ça dépend des périodes, des envies, de l'inspiration aussi, et si je pense avoir quelque chose à dire, mais je fais pas des albums pour faire des albums, c'est vraiment si j'ai un truc à dire, je fais un disque.
C'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans ton travail, c'est cette idée de, il y a beaucoup de symbolique, d'un aspect quasi, je sais pas si spirituel est le bon terme, en tout cas il y a cette idée de proposer une dimension à ta musique, un voyage, une idée, un sens ou un propos.
Ouais, bah pour moi la musique c'est ça, quelque chose de spirituel, c'est aussi vital. Sans musique, je pense que je dépéris. Oui, en fait, à chaque 10, je le vois un peu comme c'est des périodes de ma vie où je vais vivre plein de choses et toutes ces émotions vont se retranscrire en musique. Et au bout d'un moment, j'ai un certain nombre de morceaux qui correspondent à plein d'émotions du vécu, etc. Et je vais me dire, tiens, là, j'ai de la matière pour faire un album. Avec qui j'ai envie de le faire et comment j'ai envie de le faire, quoi. Mais ça a toujours... faut que ça ait un sens réel.
C'est le cas notamment avec Atlantis, qui est ton dernier album, alors qui est sorti en 2025. Il y a une version de luxe qui est un peu plus récente, janvier dernier, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Et bah, voilà, c'est cet album là, qu'on voit en vinyle. On y retrouve des morceaux, alors c'est du jazz, mais teinté de musique ambiante, il y a des sons électroniques, il y a un travail autour des textures, etc. Tu chantes, il y a aussi des invités qui viennent chanter avec toi. Bon, comme Adrien et Tis aussi, dont on va parler juste après, t'aimes bien mélanger plein de trucs dans ta musique de manière générale. Ce qui t'a d'ailleurs mené à avoir 3 victoires du jazz.
Ouais.
C'était genre, tu dis, bon ok, c'est cool et c'est pas si important, ou en vrai, ça t'a fait un petit truc, ça marque quelque chose?
Ouais, en fait, ça a plus posé une forme de confiance en moi, je pense, et, parce que comme beaucoup de femmes et certains hommes aussi, il y a toujours ce truc de la légitimité. Mmh. Et on peut avoir parfois le syndrome de l'imposteur.
Mmh. Surtout les femmes.
Et c'est assez courant chez les femmes. Mmh. Et donc forcément, ça me fait me dire, ok, en fait, ce que je fais plaît. Enfin, il y a des gens qui croient en moi, etc. Et c'est vrai que, par contre, ce qui est curieux, c'est que j'ai eu 2 fois la victoire artiste de l'année. Mmh. Ce qui est jamais arrivé, homme ou femme confondu, et j'ai l'impression qu'il a fallu ça pour vraiment poser quelque chose. Là où pour un homme, ça aurait peut-être été plus simple d'en avoir une. Mmh. Mais oui, c'est bien sûr, ça fait plaisir, ça donne confiance. Et puis, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça aux gens qui me font confiance. Et du coup, ça me donne des ailes pour avancer.
Bon, ouais, je termine en disant que tu as monté ta propre structure, ton propre label jusqu'à la nuit. Et puis que tu diriges aussi Wiz, Women in Jazz, qui est un programme, c'est quoi, mentorat, formation
pour
des femmes?
Ouais, c'est un mentorat. Bah, en fait, dans le jazz particulièrement, il y a très très peu de femmes instrumentistes, leaders encore moins. Et bon, après je peux en parler mille ans, mais en gros, j'avais envie d'aider des musiciennes qui ont entre 20 et 35 ans, enfin en fait, et de les amener dans un programme où elles ont... évidemment de la pratique musicale, mais des rencontres avec des professionnels du spectacle, enfin de la musique, des masterclass, mais en fait avoir conscience de l'écosystème global de ce milieu-là, et puis aussi un espace de sororité où on peut tous dire, où on est toutes confrontées à tous âges confondus au même problème, et pouvoir échanger là-dessus, s'entraider, se passer un coup de fil quand on a des questions, se refiler des plans. Et voilà, je suis contente, là c'est la 2e édition et ça se passe super, quoi.
Bon,
ça prend quelle forme exactement?
C'est 2 fois 4 jours. Il y a 4 jours à Jazz sous les pommiers, enfin à Coutances, et 4 jours à Sceaux. Et donc le matin c'est atelier. En fait, au départ je voulais travailler le matrimoine. On sait très bien que le matrimoine en jazz il est quand même... réduit. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup des musiciennes qu'on avait choisies composaient. Et je me suis dit, en fait, c'est à nous de créer le matrimoine. Et donc, le matin, on joue leur répertoire. L'après-midi, elles rencontrent des attachés de presse, label manageuse, programmatrice, que des femmes qui évoluent dans ce milieu-là. Et le soir, c'est des masterclass. On a eu Rhoda Scott, Sandra Nkake, il y a eu Naïssam Jalal aussi, Laura Perrudin, et j'essaye vraiment de diversifier les profils pour qu'elles aient, qu'elles voient plein d'approches et plein de parcours très différents de musiciennes qui ont fait des études assez hautes, et puis d'autres qui sont complètement autodidactes, mais qui toutes ont creusé leur sillon, quoi.
On pourra peut-être en reparler un peu, parce qu'on essaiera de parler des publics du jazz aussi, effectivement, et de l'écosystème du jazz. Bon, et notre dernier invité, autre grand talent, autre batteur, Daz.
Encore,
deux batteurs, batteurs-batteuses sur ce plateau. Alors Thys, tu as littéralement grandi dans un club de jazz.
Ouais.
Littéralement.
Littéralement.
Puisque le Baiser Salé, qui est un lieu important dans le jazz à Paris, a été créé et tenu par tes parents. Mm-hmm. Et c'est là en fait que t'as appris à jouer de la musique. Je sais pas si t'as une formation en parallèle ou c'est.
Je me suis essayé au conservatoire à Paris, ouais. Mais ça a été un échec cuisant. Ça n'a vraiment jamais fonctionné à tel point que je me suis même fait virer d'un des conservatoires. Okay. Ça marchait pas. Ouais. Donc oui, j'ai vraiment grandi et appris tout ce que j'expérience aujourd'hui. Enfin, tout ce que je fais, ça vient de là, quoi.
Il faut dire que dans ce lieu passaient beaucoup de grands musiciens de jazz, de musique cubaine, de musique africaine, un melting pot quand même.
Évidemment, mais en fait pas que. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment dans la rue des Lombards, pas juste au Baiser Salé, quoi. Ouais. C'est que j'avais la clé de, c'était passe-partout, quoi. J'allais partout. On savait que c'était moi. Je pouvais aller à n'importe quel concert, n'importe quel.
Parce qu'il y a d'autres lieux, donc, de musique, dans cette rue.
C'est ça. C'est ça. Il y a 4 clubs dans la rue. Ouais. Et donc, de mes 15 ans à mes 20 ans, quoi, c'était vraiment tous les soirs, les 4 clubs et tous les concerts. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'être sur scène. Donc, le plus je m'en rapprochais, le plus vite j'allais y arriver. Donc, j'ai vraiment vu toute la scène. Pendant 5 ans, non-stop, mais vraiment non-stop, tous les soirs. J'étais fou de ça et encore aujourd'hui, si j'ai une soirée de libre, je vais être là-bas. J'adore, c'est vraiment un lieu unique, quoi. Et bon, comme j'en fais partie, enfin, pour moi, c'est très avantageux. Je suis là, tout le monde me connaît, donc je peux aller où je veux, je fais ce que je veux.
Bah, cette passion, elle t'a amené à monter un projet il y a à peu près 10 ans, Badabada.
Oui.
Un groupe, un trio. Du jazz très influencé par la musique électronique, ça te va de dire ça comme ça?
À la base, c'était musique répétitive beaucoup. Ouais. Et c'était Guillaume Perret, notre référence en saxophoniste, qui avait fait Electric Epic à l'époque. Et en fait, on sortait de cet album qui, pour moi, est un monument, quoi. Et donc, on voulait un peu le faire à notre manière, quoi. Ouais. À notre sauce.
Il y a eu un premier album en 2024, qui s'appelle Portrait.
Exactement.
Il y a aussi ton projet Thys Plus.
Oui.
Alors, c'est intéressant parce que c'est un projet qui vit à la fois, il y a quelques enregistrements, mais qui vit surtout en live.
Oui.
Où tu réunis, en gros, des musiciens, des musiques improvisées. Parle-nous rapidement de ce projet.
En fait, Thys Plus, c'est né de l'envie. En fait, Badabada est devenu ce que c'est devenu, et du coup, j'avais un besoin à côté d'exprimer d'autres trucs. C'était une idée très spontanée de faire des concerts sous mon nom pour pouvoir chercher à nouveau. Tu vois, j'aime beaucoup chercher. Je trouve que le chemin est plus intéressant parfois même que la fin, et donc je suis là-dedans et je me suis pas posé de questions. Tu vois, je me suis juste lancé en me disant que le nom était nul et que on verrait bien. Et j'ai qu'une envie, c'est de l'enlever, ce petit plus, tu vois. Le petit plus, il va disparaître bientôt.
Okay.
Et c'était une excuse, quoi, parce que j'osais pas faire un projet en mon nom. Et je me suis dit, je vais mettre un petit plus à côté, ça va m'alléger un peu. Et donc voilà, je crois que là, en plus, j'y arrive, quoi. J'arrive au moment où je crois que je suis prêt à passer à l'étape... Oui, je crois que ça y est. J'ai une dernière série de concerts. J'ai l'impression que c'est la dernière série sous ce nom-là. Et qu'à partir de là, on va essayer de faire de la musique différemment. Et que je crois que j'ai trouvé des trucs. Enfin, je crois que j'ai trouvé ce que j'avais envie de dire, quoi. En tout cas, de défendre. Voilà.
Tu parles de dernière date. Il y en a à Paris, d'ailleurs, je crois, en mai, juin, juillet, un truc comme ça.
J'ai une résidence à la Petite Halle. Ça commence le 4 avril. Ouais. Voilà. Il y aura une date par mois.
À la Villette, trop bien. Voilà. Pour ceux qui veulent venir te voir.
Exactement.
Bon, et puis il y a ton activité de batteur pour d'autres gens. Je cite pêle-mêle Sébastien Tellier, Catherine Ringer, Sopico, Bonnie Banane. Bonnie Banane, où il côtoie notre ami aussi Monomyth.
Ah oui.
Ah oui, d'accord.
C'est plusieurs fois dans l'émission.
Ah oui, bien sûr. La famille, c'est la famille.
Chouchou.
Bon, et je termine en indiquant que donc dans le cadre d'une résidence, t'as découvert en 2023 la Nouvelle-Orléans.
Ouais.
Tu vas là-bas pour une résidence. T'es tombé amoureux de ce lieu et tu vis une partie de l'année maintenant.
J'aurais voulu partir vivre là-bas.
Ouais.
Mais finalement, j'ai fait un enfant avec ma compagne, donc on est resté à Paris. Parce que faire un enfant à la Nouvelle-Orléans, ça aurait été quand même.
C'est pas les mêmes coups.
Ouais. Étant français, c'est quand même n'importe quoi. Mais par contre, j'ai acheté une maison là-bas pour être sûr de pouvoir y retourner, tu vois, avant d'avoir l'enfant. C'était la stratégie.
Ça a une influence, on le développera plus tard, hein, mais tu penses que sur ta musique, ça a joué de découvrir la Nouvelle-Orléans ?
Immense. Mais immense.
C'est pas un peu un classique de jazzeux de...
Mais en fait, je dirais que...
C'est un cliché, Thys.
Non mais je veux dire, c'est comme le Bronx pour les gens du rap, quoi. C'est comme New York pour un rappeur, en fait.
Je pense que le jazz, c'est plus à New York, tu vois. Si tu veux avoir la vraie révélation de ce qui se fait dans le jazz d'aujourd'hui, d'accord, très moderne et tout, actuel, c'est plus New York. Mais après, si tu veux, le... moi, c'est quelque chose de plus social que j'ai trouvé là-bas. C'est quelque chose qui a beaucoup plus à voir avec ce que je suis, moi, fondamentalement, que vraiment le jazz en
d'accord,
soi.
D'accord, ok.
J'ai retrouvé des choses là-bas que je trouve pas ici en France, de par notre culture, notre société, que j'aurais pu trouver, tu vois, que j'avais un peu caressé au Brésil, dans certains endroits. Mais que là-bas, j'ai pu vraiment concrétiser parce que justement, il y a ce cadre américain qui rend la vie pour les gens comme nous extraordinaire.
Ok.
Anne y passe beaucoup de temps.
Ah oui,
tu y
vas aussi.
Elle est convertie aussi.
Ouais, j'y retourne la semaine prochaine.
Très bien. Adrien, toi aussi, tu vas à la Nouvelle-Orléans ou...
J'ai pas prévu, mais j'ai très bien.
Non, mais quand il va une première fois, après, c'est fini.
Tu peux, ah ouais, c'est rigolo.
Fini. T'es mordu.
Ouais. Ah ouais.
C'est vrai, c'est véridique.
Bah, l'idée de. On vous a réunis parce que. Je pense que c'est un peu exagéré parce qu'en fait c'est un espèce de retour permanent, mais on parle souvent de revival jazz, de renouveau du jazz, etc. Je pense qu'en fait c'est un truc, je sais pas s'il y a vraiment un moment où on est dans le renouveau absolu. Par contre, il y a des évolutions esthétiques indéniables, des scènes qui émergent, des trucs un peu plus marquants que d'autres, je pense, en fonction des époques. Et on voulait justement un peu en discuter de ça avec vous. Et peut-être pour commencer, pour ouvrir l'émission, vous êtes tous actifs depuis au moins 10 ans, voire plus. Je parle vraiment en discographie, etc., sortir des albums, ce genre de choses. Est-ce que vous avez l'impression que sur ces 10 ans, est-ce que vous auriez fait la même musique il y a 10 ans, au-delà de votre évolution personnelle, hein, mais aussi des influences qu'il y a autour de vous? Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé, des scènes qui ont émergé et qui vous ont beaucoup influencé sur ces 10, 15, 20 dernières années? Anne, tu veux commencer?
Moi, je dirais, en fait, si je remonte à 10 ans, pile, c'est mon album qui s'appelle Circles, où Adrien joue.
Okay.
Et ouais, il y a 10 ans, on faisait ce disque ensemble où j'avais invité Adrien à venir jouer du saxophone et des synthés. Et j'étais venue le chercher justement parce qu'il avait. J'ai toujours trouvé que c'était un musicien magnifique. Et c'est rare les saxophonistes qui me bouleversent l'âme comme ça. Mais aussi parce qu'il a cette culture des synthétiseurs, qui à l'époque, c'était assez rare en fait, d'avoir des musiciens qui avaient cette double culture jazz et aller vraiment chercher de la matière.
Ah, il y a seulement 10 ans, c'était pas un truc si présent. Le fait d'avoir des musiciens capables de graviter dans les deux univers.
Non, ouais, et en fait, finalement. À cette époque-là, moi, j'ai essayé de faire finalement le disque que j'ai sorti cette année, enfin en 2025, d'aller mixer du jazz. Donc, alors, qu'est-ce que le jazz ? C'est un grand sujet. En tout cas, de l'improvisation, des mélodies qui restent en tête, des accords qui viennent plus de la pop, on va dire, aller mixer ça avec... À l'époque, je voulais aller chercher un son pop, ce que j'estime ne pas avoir réussi à faire à l'époque, vraiment d'aller chercher dans le sens de la production. Mais pour moi, c'était déjà très présent. À cette époque-là, j'ai découvert James Blake, donc j'étais archi fan. J'écoutais Tune Years, Dirty Projectors. Enfin, c'était de la musique qui m'influençait et qui m'influence encore énormément aujourd'hui, en fait. Et j'ai l'impression, avec Atlantis, d'avoir réussi à faire le disque que je cherche à faire depuis 10 ans. Et d'arriver à trouver cette production qui va plus vers la pop, tout en gardant quelque chose de très organique qui vient du jazz. Mais moi, en tout cas, personnellement, ça fait un moment que j'essaye de faire ça. Mais je trouve que c'est, entre guillemets, plus facile aujourd'hui parce que les générations qui arrivent ont plus facilement cette double culture. Ce qui était beaucoup moins le cas il y a 10 ans avec les gens de ma génération, où il fallait un peu les pousser, sauf Adrien en fait, les pousser dans leur retranchement pour essayer de les emmener ailleurs. Là où aujourd'hui j'ai l'impression que les musiciens qui ont 20, 30 ans, en fait ils ont grandi avec ça et ils vont gérer aussi bien un prophète, un synthé prophète qu'un obésis, que faire un solo monstrueux au piano. Enfin, il y a cette ouverture là qui est, je trouve, beaucoup plus simple en fait. Ça a changé en tout cas.
Est-ce qu'on pourrait, peut-être qu'on peut s'écouter un extrait d'Atlantis et comme ça on fera ça pour chacun, hein. Est-ce qu'il y a un track, tu vois, où tu t'es dit, là justement, cette envie que j'avais depuis, cette envie que j'avais depuis 10 ans d'arriver à mêler pop, tu vois, enfin ce son que tu avais en tête depuis si longtemps, on le retrouve vraiment sur un morceau, à ton avis?
Je crois que c'est un peu tout le disque, mais peut-être tu peux mettre Sedna, peut-être.
Ouais. Et bah écoute, on s'écoute un petit extrait, une minute trente, un truc comme ça.
There is a raging frantic fire in my head. Fun and flames for the desires left unsaid. My
and a crowded mind waiting to be fed. Am I evil if I prey on the dead?
Adrien Soleiman, avec qui tu as travaillé il y a 10 ans. Ben justement, Adrien, parlons-en de ça. C'est intéressant ce qu'elle dit, Anne, à savoir qu'il y a 10 ans, c'est ce qu'il y a, il y a peu de temps fondamentalement, hein, il y avait assez peu de musiciens qui étaient à la fois à l'aise dans l'univers jazz et à la fois dans un univers plus pop, plus nerd peut-être, autour du matériel, des synthétiseurs, etc. C'est un truc dont tu avais conscience à cette époque-là? Tu avais l'impression d'être un peu ovni?
J'avais pas de jugement sur ma personne à ce moment-là, mais en tout cas, c'était un très bon souvenir, parce qu'on en reparle. Merci encore de m'avoir invité, Anne. Je pense que c'est en fait, il y avait sûrement d'autres, j'espère, d'autres musiciens, musiciennes qui avaient crossover, qui étaient un peu dans différents courants. Mais je pense que c'est aussi la musique jazz qui demande beaucoup de travail, beaucoup de travail dans cette musique qui est très spécifique, qui fait aussi que peut-être que les musiciens, les musiciennes prennent pas le temps ou non. Pas forcément toujours la curiosité d'aller s'intéresser à d'autres musiques parce que c'est une musique qui est assez énergivore, qui demande encore une fois beaucoup de travail, de concentration. C'est difficile de s'en sortir en faisant que du jazz. Peut-être que ça vient aussi de là, d'un manque d'intérêt parce que aussi il y a une forme de snobisme et d'élitisme dans cette musique. Et il y a des musiciens de jazz qui pensent que le jazz c'est mieux que les autres musiques.
On y arrive déjà.
Ça participe, je pense, au fait que peut-être que tout simplement en fait ils s'y intéressent pas. Ouais. Donc quand on s'intéresse pas, on n'écoute pas la musique, on n'a pas les codes, donc on n'a pas des réflexes en studio de se dire ah mais sur ce morceau ce serait peut-être bien d'aller chercher cette référence et de mettre un synthé plutôt qu'un accord avec un son sur un piano.
C'est paradoxal parce que c'est une musique que j'aime bien, mais que je connais pas non plus extrêmement bien, le jazz. Mais tu vois, par exemple, même moi, en tant que non-expert, je sais qu'un Miles Davis, par exemple, était connu pour son ouverture et ses expérimentations, etc.
C'est pas le seul.
Oui, c'est pour prendre un grand nom que tout le monde connaît, quoi, globalement,
ouais, ouais.
Tu vois.
Ouais, non,
donc, je me dis que dans cette musique, il y a quand même un truc aussi intrinsèquement de recherche sonore, d'ouverture, etc.
Mais il y a aussi beaucoup de gatekeeping, je crois. Enfin, ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que Miles Davis, quand il fait Man with a Horn ou des trucs comme ça, qui est vraiment 100% électronique, quoi. C'est Miles Davis, tu vois. Je pense qu'il peut se le permettre, en fait, alors que si t'es personne, on va te faire rapidement te rappeler que t'es personne, tu vois. Il y a, en tout cas, nous, d'un point de vue vraiment public, consommateur, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là de la musique jazz où...
C'est un peu communautaire, entre guillemets, ils sont un peu dans leur jazz.
Ou alors, soit c'est les gens ils vont te dire, bah en fait, on n'y comprend que dalle, parce que ça part dans tous les sens. Soit, effectivement, tu vas comprendre que pour capter l'essence, enfin l'âme de la musique, vraiment, il faut taffer, quoi. Il faut vraiment être studieux.
Toi, Thys, ça t'évoque quoi, cette idée qu'effectivement, il y a peut-être parfois un peu, pas des œillères, mais en tout cas, il y a 10 ans, je pense que ça a certainement changé, mais il y avait encore ce côté, chaque chose à sa place, un peu séparée, on a du mal à mélanger un peu les choses, non?
Ouais. Pour moi, ce qui est intéressant de mon côté, c'est qu'il y a 10 ans, je rentrais en école de jazz. En fait, je suis rentré très tard. Et donc, en fait, la génération dont on parle aujourd'hui, c'est la génération avec laquelle moi, j'ai grandi en école. Donc, je les ai vus, j'étais, enfin, pour moi, au contraire, j'étais entouré de gens qui
je voulais faire voler au contraire en éclat le truc des frontières.
C'est-à-dire qu'on était là-dedans, il y avait Oxy, il y avait Lilian, il y avait c'est des gens qui ont joué avec Anne. Mmh. Et en fait, au sein de l'école, il y avait les puristes, ils étaient là. ils étaient là et je les vois encore, ils sont au Duc, ils sont là, ils font les jams et ils sont dans leur truc, tu vois, et c'est leur monde. Et en fait, eux, ils demandent rien à personne, ils sont là, ils sont passionnés de jazz, ils sont dans ce romantisme-là et je trouve ça beau aussi, tu vois, il y a une forme de beauté là-dedans, tu vois, ils font de mal à personne, quoi, ils font juste ça jusqu'au moment où, comme il dit, il faut pas que ça devienne un truc de élite, tu vois, il faut pas penser que t'es dans une élite en faisant ça. Et au même titre, il y avait bah, les gars de Bada, je les ai rencontrés en école, quoi, tu vois, j'aurais pas monté Bada si j'avais pas été au CMDL parce qu'on a eu cette intimité et ce temps de réflexion où je découvre des, moi j'avais 25 ans, ils en avaient 18, tu vois, et en fait ils avaient pas trop d'expérience à cette époque-là, mais on rien que de parler de musique, ça nous a donné envie d'en faire, tu vois. Et donc oui, ça, je pense que je l'ai pas vécu parce que j'étais déjà dedans à cette époque-là, donc je peux pas en parler de la même manière.
Ouais. Toi, Anne, ce truc de... Parce que ce qu'a dit Adrien, d'un regard extérieur, on pourrait se dire que... Tu vois, c'est un peu un truc facile, on pourrait dire, bah ouais, les jazzeux, ils sont dans leur délire de jazzeux. Mais même quelqu'un qui connaît bien le milieu te dit, oui, c'est vrai, il y a une part de ça. Toi, tu l'as aussi observé. Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'il faut pas qu'on soit dans le cliché non plus, non. Il faut dire qu'il y a des jazz, des scènes.
Ça, ouais, c'est... en fait, jazz, c'est un mot fourre-tout. Ouais. Je veux dire, dans le jazz, t'as Louis Armstrong, mais t'as aussi Shabaka, tu vois. Enfin, c'est ça veut tout rien dire ce mot, mais c'est vrai qu'il y a et en France, en fait, c'est très français. Il y a des chapelles, tu vois. T'as les gens qui aiment le bebop, t'as qui vont te dire que à partir de telle année de l'histoire du jazz, c'est plus du jazz. Enfin, tu vois, t'as voilà. Il y a un peu des ayatollahs de certaines périodes qui vont décréter que ça, c'est des... Tu vois, c'est comme ça, c'est là. Mais après, tu vois, moi, pour plein de gens d'ayatollah du jazz, je fais de la musique mainstream. Tu vois, on va me dire, toi, tu fais de la pop. Puis tu parles avec des gens de la pop, ils vont faire, bah, tu fais du jazz. Tu vois, et en fait, quand tu vas aux États-Unis, justement, tu vois, à la Nouvelle-Orléans, un soir, tu fais un gig, tu vas jouer à des reprises de Solange. Le lendemain, tu vas faire du Roy Ayers. Et puis, le jour d'après, on va te brancher pour un gig vraiment early jazz. Tu vois, le truc des années 30, quoi. Mmh. Et en fait, tout le monde s'en fout finalement de ce que c'est. Il n'y a pas... Et les musiciens de jazz, tu vas les retrouver. Tu vois, la batteuse de Beyoncé, c'est une incroyable batteuse de jazz. Et en fait, il n'y a pas ces questionnements-là. Et c'est pour ça que moi, je suis si heureuse de voir des musiciens de jazz qui évoluent dans la pop et qui continuent à aimer cette musique et à faire des disques en disant moi je fais du jazz, parce qu'en fait ça décloisonne et il y en a besoin en fait de décloisonner. Faut arrêter de mettre les choses dans des cases, quoi.
Alors, pour aller dans le sens de notre idée qu'il y a peut-être une évolution, en tout cas, enfin, c'est la question qu'on pose en tout cas, est-ce qu'on peut dire que donc, de tout temps dans le jazz il y a eu plusieurs scènes, des gens qui expérimentaient des choses, etc. Est-ce que quand même c'est juste de dire que ces dernières années il y a peut-être eu une ouverture encore plus importante qu'auparavant chez beaucoup de jeunes musiciens, ou pas forcément, ça reste en fait dans une forme de continuité de l'histoire du jazz?
Je pense qu'on a toujours l'impression d'innover, mais très vite on est rattrapé par le tu vois, genre typiquement là il y a une semaine j'ai fait des concerts à la gare où j'ai ramené des ce qui est pour moi une nouvelle technologie, c'est-à-dire des baguettes électroniques qui jouent sur des batteries acoustiques, et donc j'étais en mode waouh, ça va être le futur, et je n'ai pas dit ouais t'es dans le futur et tout, et après il y a un pote,
c'est déjà quelques années, hein.
c'est ça,
ils ont fait faillite, ils le font plus.
Ouais, déjà ils le font
plus.
Non mais pour te dire à quel point, c'est-à-dire qu'il y a Nico Charlier qui m'envoie un message, il m'envoie une vidéo de Pat Metheny, ouais, qui faisait déjà ça à l'époque. En fait il avait un solo où il y avait des baguettes électroniques partout, qui lui en avait 400 des baguettes électroniques, moi j'en avais deux, tu vois. Et donc quand tu vois ça, mais moi j'avais pas la prétention de déjà dire je suis en train de révolutionner le truc, ouais, mais ouais, c'est clair que ça a déjà été fait. Enfin, on connaît pas tout, et évidemment c'est bien d'avoir la sensation de créer un truc, parce que c'est ce qui te motive aussi à, en fait c'est la sincérité qui compte, c'est ce que toi t'en penses, et si c'est sincère, bah ça touchera les gens. Et donc je dirais que oui, il y a une évolution dans les mentalités, et moi je dirais qu'il y a plus une évolution dans la commercialisation du jazz aujourd'hui, plus, parce que en fait c'est devenu un business à part entière, tu vois, et surtout en France. Et c'est aussi ça qui fait qu'on a un cadre un peu particulier par rapport au reste du monde, c'est que chez nous il y a un système qui marche, alors que ailleurs ça marche pas vraiment. Et donc comme ça marche, et ben il y a des règles qui se créent, et donc à travers ces règles là il y a aussi une évolution qui se crée, tu vois, je pense. Mais oui, il y a une ouverture en tout cas dans la jeune génération. Mais comme dans tous les milieux, parce qu'avec Instagram, avec machin, aujourd'hui, les mentalités, elles s'élargissent, quoi. T'as pas le choix.
Après, je peux rebondir. En fait, ce que je trouve très drôle, c'est que historiquement, le jazz a toujours, en tout cas, le jazz français, a toujours fait des... Tu sais, genre, tu regardais les pochettes mais c'était éclaté au sol. Okay. Tu vois, et il y a même eu un compte Instagram de la chemise jazz parce que c'était un désastre. Et en fait, aujourd'hui, les musiciens ont pris conscience du fait que il faut avoir des belles photos, il faut chercher à
soigner l'emballage.
Ouais, et ouais, que le package soit soigné et réfléchi, ouais. Et pas juste, tu prends le trio, tu mets une chemise colorée et
c'est jazz, c'est bon, c'est
tu mets cool. Le leader devant, les deux autres derrière un peu flou, enfin tu vois, il y a mais tu vois, c'est, on rigole, mais c'est franchement, enfin tu regardes les pochettes de disques de jazz d'il y a 10 ans, franchement, enfin même 15 ans, et du coup ça bouge, il y a tout le monde cherche à voilà, trouver un truc avec les photos, faire des photos intéressantes, réfléchir à un graphisme qui va un peu tu vois, donc ça a changé aussi. Mais c'est peut-être justement parce que ça devient peut-être un peu plus commercial, je sais pas.
C'est, ouais, c'est ça. Adrien, toi, tu l'observes ça aussi?
Bah, bien sûr, ouais, non, mais c'est, le jazz, c'est de nouveau cool. Donc les musiciens et musiciennes, ils soignent leur image.
Est-ce que le côté pop, donc le jazz qui se mêle avec la pop, c'est pas seulement esthétique, d'un point de vue esthétique sonore, mais même globalement en tant que projet, comment
se
vendre?
C'est de reprendre des codes de communication, de marketing, de la musique qui se vend, donc pour vendre plus de jazz, c'est sûr.
Mais ouais, mais c'est du mainstream. C'est pas possible.
Mais c'est normal de prendre soin de soi en tant qu'artiste et d'avoir envie d'avoir une bonne image, d'être beau, belle, de faire attention à comment on s'habille. Genre, tu parlais de Miles Davis tout à l'heure, je veux dire, Miles Davis, c'était une fashion victime de l'espace. Il était super méga bien sapé tout le temps, et c'était pas le seul. Donc, ça participe à l'aura de l'artiste. C'est important.
Oui, mais il y avait peut-être l'artiste, ce qui dégage en tant qu'artiste sur scène, et après, la façon, effectivement, de le mettre en pochette, et où là, c'était un peu plus à l'ancienne, quoi, un peu plus...
Bah, moi, je trouve, enfin, pour avoir vu des pochettes, tu vois, d'Ultramarine et de groupes du BBC Island School, c'était déjà créatif à cette époque-là. Il y avait quand même aussi des gens à l'époque qui faisaient des trucs, pas comme elle dit, le cliché du... C'est juste que le spotlight, il n'était pas du tout à cet endroit-là. Genre, personne connaît Ultramarine, à part les fanas du BBC Salé. Alors que je pense qu'aujourd'hui... Ça pourrait avoir une autre résonance, tu vois, parce que le contexte et socialement ce que ça représente, c'est beaucoup plus fort. C'est, comme il dit, c'est plus cool aujourd'hui. Mais ça existait déjà encore des musiciens qui essayaient, tu vois, déjà de dépasser juste, comme elle dit, le côté un musicien et les deux derrière.
En fait, ça suffit plus de savoir bien jouer.
Ouais. Et ça, c'est bien et dommage en même temps, je trouve.
Il faut faire des stories Instagram, c'est ça que t'es en train de dire, par exemple?
Bah, bien sûr.
Ouais. Ok.
C'est quand même, vous avez tous les réseaux sociaux, vous voyez le nombre de comptes Instagram de musiciens, musiciennes qui sortent pas d'Instagram, qui passent leur journée à faire des vidéos, ils performent, ils shred. C'est un vrai effet de société, ça.
Mais ça peut, enfin.
Après, je sais pas ce que ça donne dans la réalité, si ça leur donne du travail pour des tournées. Le studio, ça, j'en sais rien. Et à la limite, je m'en fiche, mais c'est un vrai truc. Donc, maintenant, tout le monde fait attention. Ça participe à la coolness du jazz et de savoir. En fait, c'est un truc de performance. On aime bien avoir des vidéos autant d'un gars qui va sauter, qui va faire un saut en ski de 20 mètres. Un mec qui un guitariste qui va jouer hyper vite une phrase. Tout le monde, en fait, ça attire les gens. Parce que c'est. Enfin, je sais pas, peut-être je me perds, mais ça participe à tout ça. Et après, bon, il faut quand même essayer de maintenir l'essentiel qui est la musique pour moi.
Ouais.
Et essayer de faire des bons disques et de faire écrire des morceaux. En tout cas, travailler et donner quelque chose aux gens de travailler le plus possible.
Et pour en revenir à ta question, du coup, bah, je trouve que ça, c'est le downside. C'est-à-dire que ça, aujourd'hui, ça influence notre musique aussi. Il y a cet aspect-là aussi. Moi, maintenant, j'essaie de lutter contre ça. Tu vois, contre le côté tellement... c'est très tentant pour moi de mettre mon téléphone et de passer mes journées à faire des vidéos pour avoir des followers, pour me dire que ça va être comme ça, que ça va marcher et que mon album découlera naturellement de ça. Et donc maintenant, moi, c'est une vraie influence pour moi qui est mauvaise, quoi. C'est malsain, je trouve. Et donc maintenant, j'essaie de contrecarrer ce truc et de... Quand j'ai une idée, de ne pas vouloir la présenter tout de suite, tu vois, de la cuver, de la préserver, de la protéger.
Oui, qu'elle mature.
Parce qu'on a une tendance maintenant à se dire « Ah, j'ai une idée, allez, vas-y, vite.
Ouais, » C'est juste en réel.
Tac, ça va aller vite et tout, et comme ça, c'est facile, tu vois. Et donc, je pense que oui, aujourd'hui, on ne fait pas de la musique de la même manière aussi pour ça, parce qu'il y a aussi cette forte pression, quoi, de performance et de résultats très concrets, quoi.
On pourra discuter de ça, mais parce qu'on parle aussi de la musique, on se dit il faut parfois revenir à la musique en tant que telle. J'aimerais qu'on parle aussi un peu des grands faits sonores, si je puis dire, je sais pas comment le préciser. Mais par exemple, les musiques électroniques. J'ai l'impression qu'il y a un truc naturel avec le jazz et que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. On peut s'écouter du Tiss Plus, par exemple, ou le dernier morceau qui a été enregistré et sorti, Tiss, attends que je le retrouve.
Et Loving You.
Loving You, par exemple, tu vois, c'est un, je trouve que c'est un bon exemple. On peut se l'écouter et en discuter après ?
Avec plaisir.
Allez, on fait comme ça. Sur la montée.
C'est dommage, c'était la montée là.
Le morceau dure 7 minutes.
Ça me fait rire quand tu l'as
vu
aussi, vous allez vous manger un peu.
Bon, là, on retrouve clairement des codes des musiques électroniques. Il y a même un aspect presque quasi French touch, un peu house filtré, etc. Tu vois, avec la montée à la fin et tout.
Même avant ça, là, on était dans les ambiances genre Equalizer en 1986.
Je vais être plus précis, c'est Laurent Garnier, c'est son morceau avec le saxophone. Là, c'est vraiment un hommage un peu à ça. L'intro, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce morceau où il y a un saut de saxophone archi ringardos, mais qui marche parce que c'est de la house. Et je voulais repliquer ce truc-là un peu ringard. Je sais pas.
Il faut qu'on en discute de ça, parce que. Pourquoi il y a un truc, j'ai l'impression, quasi naturel entre jazz, musique électronique. Enfin, il y a un truc qui marche très bien. C'est beaucoup exploré par les musiciens de jazz, j'ai l'impression. En plus, les musiques électroniques, en fait, c'est hyper vaste. Tu parlais de musique répétitive initialement. Il y a plein de formes. La techno, c'est pas la house, c'est pas l'esprit non plus de Steve Reich ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Vous, c'est quoi votre approche des musiques électroniques? Comment vous la mettez dans votre musique? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un peu naturellement des trucs jazz, musique électronique qui fonctionnent? Anne, tu veux nous en parler?
Non, je. Moi, je cherche pas à reproduire. Ouais. Je trouve qu'il y a des groupes qui font ça très bien. Je pense à Cabaret Contemporain, qui fait de la musique électronique avec des instruments acoustiques. Moi, je me suis pas dit. Il y a des morceaux où on peut se dire c'est un peu électro, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le pas de côté. C'est-à-dire, si un musicien. Par exemple, je me souviens d'une fois, on avait. Une chanteuse qui est remplacée dans le groupe et puis le clavier commence à jouer un truc un peu dance et la chanteuse elle embraye direct en mode dance et je lui dis non, surtout pas. Et en fait moi ce qui m'intéresse c'est s'il y a un musicien qui va là, c'est en fait d'avoir un autre musicien ou une autre musicienne qui va amener la musique ailleurs en fait. Parce que l'électro, alors je prétends pas du tout révolutionner la musique et je pense que, enfin voilà, mais par contre moi ce qui m'intéresse c'est de pas aller... pas se dire ah tiens on fait un truc électro et tout le monde emprunte les codes de l'électro. Moi ce qui m'intéresse c'est d'emprunter certains codes mais par contre de les détourner en amenant un élément qui n'a rien à voir.
Et si c'est pas des gimmicks, je comprends l'idée de ce que tu nous dis, par quoi ça passe? Est-ce que par exemple c'est dans les musiques électroniques peut-être plus que dans d'autres musiques qui y a un travail autour des textures par exemple?
Ouais, ça, je trouve ça.
Est-ce que ça, c'est un élément que tu pourrais reprendre
ouais,
et que tu...
ouais. Ouais. Bah, je sais qu'en ce moment, j'écoute beaucoup un groupe, enfin, un musicien qui s'appelle Rival Console.
Ouais,
et j'adore comment il traite les textures.
Tu parles aussi parfois de One Notrix Point Never, ouais. Des choses comme ça.
En fait, moi, j'aime les musiciens et les musiciennes qui créent des paysages sonores et où, en fait, tu vas avoir plusieurs niveaux de lecture. Tu vas avoir un premier niveau et puis, en fait, plus t'écoutes, et plus tu te rends compte de la profondeur. Et pour moi, c'est là que ça devient intéressant. Donc oui, en tout cas, me concernant, ça serait peut-être plus aller chercher quelque chose au niveau des textures. Mmh. Et puis, j'ai une grosse passion pour les synthés. J'adore ça. Et dans Atlantis, il y a deux personnes qui jouent les synthés. Parce que j'adore, en fait. Mais tu vois, typiquement, tu as beaucoup d'instruments synthétiques dans ce groupe. Mais la batterie, par exemple, elle est complètement acoustique. Après, sur le disque, on a traité un peu, mais... Et en live, c'est ça, en fait. Tout le monde part un peu avec de l'électronique. Et moi, je garde le côté très organique de la chose. Ouais. En tout cas, moi, c'est ma conception. Je ne vais pas chercher à... Enfin, je veux dire, l'électro, il y a des gens qui le font très, très bien. Et je ne vais pas chercher à reproduire ça. J'aime bien quand ça décale, en fait. Ouais.
Toi, Adrien, ton rapport aux musiques électroniques, comment tu les insères éventuellement dans ta musique? Alors, le Bell Jazz Club, c'est moins l'esprit, par exemple. Mais c'est quand même une musique que je suis sûr que tu apprécies, qu'on retrouvait un peu parfois dans Brie, des aspects de la musique électronique.
Ouais, ouais. Après, c'est, quand tu parles de musique électronique, tu parles du style ou tu parles juste d'utiliser des instruments qui marchent grâce à l'électricité?
C'est vaste, effectivement.
Les deux.
Il y a une culture enfin, aussi, c'est vrai, il y a une culture autour des musiques électroniques aussi, tu vois, au-delà des outils, etc.
Ouais, ouais. Oui, t'as raison. Bah, écoute, un peu comme Anne, j'avoue, j'anticipe pas tout ça, mais j'écoute de tout, donc oui, la musique électronique m'influence dans mon process de composition, de production, pour que ce soit pour moi ou pour les autres.
Il n'y a pas un mariage naturel, comme je le disais, un peu un truc qui fonctionne avec le jazz, parce qu'il y a des codes communs, justement, par exemple.
Bah, ce qui fonctionne avec le jazz, probablement, c'est, en tout cas, je vais peut-être un peu aller ailleurs dans la question,
ouais,
mais...
Vas-y.
Parce que là, on a Tiss en face de nous, mais si on connaissait pas Tiss, est-ce que tu dirais que c'était du jazz qu'on vient d'écouter
non.
ou
non
même est-ce que c'en est parce que c'est un jazzman qui en joue?
J'aurais dit que c'était de la musique de batteur, par contre, effectivement.
Ouais. Aussi, mais je pense qu'il y a un rapport aussi des jazzman qui se rapprochent de cette musique par rapport au club, par rapport au live, en fait.
Ah, intéressant.
À mon avis, il y a quelque chose qui joue. On parlait de la gare tout à l'heure, qui est quand même un spot où globalement les artistes qui sont programmés font de la musique électronique sur scène. Tu les confirmes, Tiss? Et c'est aussi pour enjailler les gens, en fait, parce que c'est plus facile de faire kiffer les gens avec de la musique avec un pied sur tous les temps et des tempos assez élevés que de faire du jazz des années 60.
Donc c'est lié, en fait.
Je sais pas si c'est lié. En tout cas, moi, ouais, j'y vois
aux
une connexion. Peut-être ça commence sur scène. Peut-être c'est mélange. Et après, ça finit sur disque. Peut-être, c'est peut-être dans ce sens que ça se passe. J'en sais rien.
Je me demandais si c'était pas peut-être aussi lié aux méthodes d'enregistrement moderne. C'est-à-dire que, globalement, maintenant, tous les musiciens utilisent Ableton. Et que, du coup, si t'es un musicien acoustique et que tu commences à t'enregistrer, bah, déjà, tu vas faire de la musique répétitive, tu vas te louper. Puis après, tu vas commencer à bricoler les plugins. Et peut-être qu'en fait,
les outils home studio, t'as raison.
C'est vrai qui,
Bien sûr, bien sûr.
Je pense qu'il y a une part de, vraiment, de culture française aussi, tu vois. C'est-à-dire que, pour moi, le jazz a toujours été la musique. La réflexion de la musique actuelle, et ça a toujours été en parallèle de ce qui se passe dans la société. Mmh. Et moi, je peux parler que en mon nom, tu vois, genre ma sœur, elle est DJ, et je me souviens très bien à 20 ans, elle habitait à Londres, je vais la voir, et je me mange Justice pour la première fois en boîte de nuit.
Il fallait aller à Londres découvrir Justice, quoi. C'est terrible.
Moi, j'étais rue des Lombards, les gars, je vous ai dit, je bougeais pas de là. Je sortais pas de là. Et donc, je vais vraiment la voir, et je me mange Wather of Nazareth, et je me dis, what? Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Et en fait, tu vois, on parle beaucoup des Anglais et ça résonne très fort ce qu'ils font. Mais parce qu'en fait, ce qu'ils jouent, c'est leur vécu, tu vois, c'est leur vie. C'est-à-dire que quand ils jouent de UK Jazz, c'est ce qu'ils vont voir en boîte de nuit, ça fait partie de leur vécu. Et donc, ils expriment du vécu. Et je trouve que nous, on a des enjeux par rapport à ça qui sont très durs. Parce que souvent, on fait de la musique qui est un peu détachée de notre vécu parce qu'on a moins de culture populaire musicale comme ça.
Ouais.
Et là, tu vois, tu parles de French Tot, clairement, c'est une énorme influence à Daft Punk. J'ai grandi avec Daft Punk, avec Justice. Et donc, évidemment, quand je fais de la musique électronique, ça ressemble à ça. Parce que c'est notre culture, c'est ce qu'on a vécu. Et donc, on s'y sent à l'aise, quoi. Enfin, tu vois, je me suis rendu compte de ça après coup, tu vois. Genre, mon père, c'était de la musique, c'était des discos, tu vois, c'était les Gibson Brothers. Donc, pareil, c'est des trucs qui sont là, qui sont ancrées. Donc tu t'accroches à ça.
Ton père était musicien, était dans, cofondateur du groupe Gibson Brothers.
Et donc tu t'accroches à ces choses-là. Et donc pour moi, c'est naturel qu'aujourd'hui en France, le jazz il aille vers la musique électronique parce que c'est notre culture pour le coup. Tu vois, on fait du hip-hop. Enfin, il y a le rap et il y a la musique électronique.
Ben alors parlons-en parce que on pourra continuer un peu sur la musique électronique parce que vous avez cité, enfin t'as cité l'Angleterre, Londres. Il y a évidemment cette scène qu'on met beaucoup en avant, d'ailleurs qui est aussi bien marketée d'une certaine manière, certainement autour du broken beat, etc. Je pense évidemment à Youssef Dey, ce genre de choses, etc. On pourra en discuter un peu après. Mais là, tu viens de citer le hip-hop, il faut qu'on en parle. Je parlais de mariage naturel entre jazz et musique électronique. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un seul jazzman d'aujourd'hui qui s'est pas pris les Soulquarians, D'Angelo, Voodoo, etc., qui s'est pas pris Jay Dilla, qui s'est pas pris Tribe Called Quest et toute la Native Tongues, et que c'est devenu quasiment une part inhérente du jazz que d'être influencé par le beat hip-hop, quoi.
C'est eux qui se sont pris le jazz, non?
C'est ça. Surtout.
Eux se sont pris le jazz, mais ensuite le jazz se les pris. Enfin, il y a un truc quand même un peu de.
Il faut avoir un peu de connaissance de l'histoire de la musique, mais.
Bah, gourou, ouais, jazz matas, tout
bien
ça.
Bien sûr. Mais oui, t'as raison. Enfin, je veux dire, ça revient, c'est pas pour rien qu'il n'aurait que Lamar, il y a que des jazzés aussi derrière lui. Il parlait de la batteuse de Beyoncé, c'est ça. Bah voilà.
Et c'est là où tu parles de vécu, tu vois. Ça revient, quoi. C'est que des. Enfin, tous ces musiciens-là, un Robert Glasper, tu vois, quand il reprend tous ces trucs-là à sa sauce, bah, il est dans le concret de ce qu'il a vécu toute sa vie, tu vois.
Ça,
et donc, ça résonne. Alors que moi, si je fais un projet hip-hop aujourd'hui, bah, ok, ça peut tourner autour, enfin, je vais faire des clichés, mais ça tourne autour de IAM et de NTM et de ce que j'écoutais dans les années 90. Et donc, ça aurait du sens de faire ça. Et ça toucherait, bah, vous, tu vois, les gens de notre génération. Mais donc, il faut que ce soit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la musique électronique, elle est si présente, je pense. Parce que c'est vraiment le patrimoine qu'on a, quoi. Vas-y.
Non, vas-y. Si tu
fais que la chanson française et que des influences que je pense qu'on peut avoir dans leur. Enfin, tu vois, il y a cette poésie dans la chanson française qui est vraiment un patrimoine et qui, du coup, influence aussi, tu vois, nos choix, nos esthétiques. Et donc, ça fait partie de notre vie, quoi.
Toi, Anne, le hip-hop, par exemple, c'est un truc que tu t'es pris en tant que batteuse en plus.
Ouais. Bah, D'Angelo, oui, ouais. Clairement. Et puis. Je suis allée pas mal à New York à une époque et je suis retournée à peu. Il y a un club qui s'appelle New Blue. Et le lundi, il y a un producteur. Alors là, j'ai un gros trou de mémoire.
Ray Hungry.
Voilà, c'est Ray Hungry. Et alors là, j'ai pris une espèce de. Là, j'étais il y a 2 ans et j'ai pris une espèce de claque.
Moi, je ne connais pas. C'est qui ce mec?
C'est un producteur américain qui est claviériste, pianiste et qui joue avec plein de monde dans le hip-hop.
The Roots, c'est D'Angelo aussi.
Ah, ok.
Et lui, il a vraiment. Et en fait, ce que j'ai entendu ce soir-là, c'était de la jam. Et je me suis dit, pareil, à New Orleans, pendant le Jazz Fest, il y avait une jam un soir avec tous les gars qui jouaient sur les grandes scènes et tout, qui ont débarqué. Et là, je me suis dit, je suis en train d'entendre encore quelque chose de nouveau, en fait. Mais de. Qui est le résultat du jazz, du hip-hop, des allers-retours entre ces deux musiques, avec toutes les musiques qu'il y a aujourd'hui, en plus, qui viennent infuser. Enfin. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un truc. Et en fait, nous, on ne peut pas faire ça. En fait, on n'a pas grandi là-dedans.
Ah ouais, même tu t'es dit ça, toi?
Okay. Bah ouais, et puis même en tant que batteur, enfin, tu vois, je veux dire, quand tu vas à la Nouvelle-Orléans, les batteurs, leur manière de groover, quand tu écoutes la second line le dimanche, comment ça. La manière de se placer, enfin.
C'est quoi la second line, le dimanche?
Second line, c'est le dimanche, en fait, c'est des fanfares qui vont marcher pendant 5 heures en jouant de la musique. Et en fait, ce qui est dingo, c'est que. Tu peux pas t'en empêcher, tu te mets à danser. Moi, en France, la plupart du temps, quand je vais à des concerts, mes pieds ils bougent pas, quoi. Et là-bas, en fait, t'es possédé tellement ça groove. Et c'est pour ça, tu vois, nous, en tant que batteurs, on a aussi un truc à trouver à nous, parce que on n'a pas grandi dans le bain des États-Unis, on n'a pas grandi à la Nouvelle-Orléans où t'entends de la musique du matin au soir, etc. Donc oui, évidemment, le hip-hop, c'est une influence parce que
c'est quand même mondialisé, tu vois. Donc,
ouais, puis on se les est vraiment pris, mais je pense que quand tu vis dans un endroit...
C'est la culture même, c'est l'essence des gens là-bas,
ouais,
en fait.
C'est ça. Et les murs, moi j'ai l'impression de mieux comprendre les musiques quand je vais dans l'endroit où elles sont jouées au quotidien, où elles sont nées, etc. Et c'est pour ça qu'aussi, tu vois, la question du jazz, enfin, je veux dire, on est français, quoi. Tu vois, on n'a pas grandi. Donc, forcément, ça prend d'autres formes et on va s'influencer d'autres choses aussi.
Mais c'est marrant parce qu'on l'a dit souvent, moi, c'est vraiment quelque chose que je pense que
la France n'est pas un pays de musiciens au sens où on l'entend là, c'est-à-dire que quand tu vas aux États-Unis, n'importe où aux États-Unis, moi quand j'allais voir mon frère à Los Angeles, c'était tu descendais, le mec qui tient le coin de la rue, il a une enceinte et il balance des sons et t'es en mode waouh, et tout le monde, enfin la musique elle est là, tu vois, elle infuse et c'est dans leur culture parce que c'est ce qu'ils vivent depuis 80 piges, ils se prennent de la musique comme ça et en fait c'est naturel. Mmh. Alors que chez nous, faut vraiment la faire aux endroits où on s'attend à ce que la musique soit là. Tu vois, il y a, ça infuse pas en fait dans la rue, dans la vie des gens, et tu t'en rends compte quand tu traînes justement dans la rue, notamment aux États-Unis. Et ce qui est marrant, c'est que malgré ça, c'est-à-dire qu'en France, on pourrait dire qu'on a des carcans où finalement la musique elle a sa place là, mais une fois que ça sort de là, tu l'enlèves. Tu vois, c'est et pourtant la France est un marché pour le jazz qui est super important en fait. Donc c'est bizarre ce paradoxe.
Peut-être qu'Adrien il peut nous dire est-ce qu'il y a ce truc
Tu réponds.
Allez, vas-y Adrien, vas-y.
Non mais est-ce que
tu voulais savoir
est-ce que t'as un truc un peu ce rapport au patrimoine, un peu à ce qui construit un peu une culture, un truc propre peut-être à la France, je sais pas, ou toi à ton parcours, t'as l'impression que tu vois que t'as un peu plus de mal à te sentir légitime ou à t'approprier une musique. Par contre, c'est plus naturel avec d'autres trucs. T'as un peu ce sentiment ou pas forcément?
J'ai pas l'impression de m'approprier une musique. J'espère faire la mienne.
Mais elle se nourrit de quoi ta musique?
Bah de mon histoire, de mes origines, de ce que je suis, de ce que je vis, de ma femme, mes enfants, ma famille, mes frères. Je pense que c'est de mes amis, enfin des autres musiciens. C'est ça surtout, je crois, qui construit tous les artistes autour de cette table. C'est vrai que c'est typiquement français aussi de se comparer aux autres, notamment aux Américains, aux Anglais. On aime bien le faire. Mais je crois pas qu'on doit être complexé. Au contraire, notre culture, elle est quand même, c'est la France, c'est quand même un pays très ancien. On est en Europe. Voilà. On est près de plein d'autres choses. On a plein de choses à dire. La France, les Français sont tous des gens qui viennent de plein d'origines différentes, donc on a plein de trucs à raconter, je pense. On n'a pas à rougir, mais moi j'essaie de puiser là-dedans, en tout cas. Après, je pense qu'il faut pas imaginer que les artistes, putain, après j'en sais rien, mais
ouais, vas-y,
se mettent à une table et se disent ok, alors je vais faire ci, je vais faire ça va être par rapport à ça, ce que j'ai vécu là, et puis ça va paraître ça. J'ose croire quand même que c'est beaucoup plus instinctif, spontané, et que souvent on comprend des choses bien plus tard.
Mmh, bien sûr.
C'est une vraie thérapie en fait. Donc moi je m'inspire personnellement de mes origines libanaises, qui a immigré en Guadeloupe dans les années 30. Voilà, une histoire que peu de gens connaissent.
Il y a eu un mouvement comme ça, une diaspora libanaise.
Il y a une diaspora libanaise un peu partout, mais aux Antilles, en tout cas, ouais. En tout cas, ma famille, moi, c'est ça qui s'est passé. Ils sont partis dans les années 30.
Dans toute l'Amérique latine aussi,
au Brésil, il y en a beaucoup, ouais. En Afrique de l'Ouest. Et nous, c'est la Guadeloupe. Voilà. Alors, moi, ça m'influence pas spécialement par rapport à la musique antillaise. Mais juste par rapport au décor, ce que j'ai pu vivre enfant en allant en Guadeloupe tous les ans et en voyant ces Libanais guadeloupéens, en fait, qui donnent un drôle de mélange, vous l'imaginez.
Ça fait bizarre quand tu l'as dit.
Bah ouais, mais c'est
Libanais guadeloupéens, je l'avais jamais entendu.
Bah ouais, mais c'est ma famille, c'est ça, mes cousins, ils sont tous là-bas.
C'est pour ça que t'es aimable.
Voilà, et du côté de ma mère, on est bretons, et puis on parlait de musique dans la rue et tout, en Bretagne, il y a des fest-noz tous les week-ends. Les gens dansent. Ouais. Des centaines de personnes, des milliers de personnes dans les fest-noz.
Le problème, c'est que la Bretagne, c'est pas la France, tu le sais, je le sais.
Voilà, j'imagine qu'au Pays Basque, c'est pareil, en Corse, j'en parle pas, mais est-ce que c'est vraiment un truc de culture ou est-ce que c'est plutôt un truc de on se le permet pas et on sait très bien que là, si on met une enceinte, ça va mal se passer très rapidement. Mmh. Il y a plein de gens qui écoutent du super son en France et à Paris. Si tous les diggers veulent commencer à ouvrir leurs fenêtres et mettre du son, ça va être super.
Ouais, mais en fait, on le fait pas. C'est bien le problème.
Ah ouais, on le fait pas, t'as raison. Ouais, on le fait une fois par an, en fait, de la musique.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais
voilà.
Et même ça, c'est en train d'être commercialisé, je trouve.
Et puis surtout, maintenant, c'est surtout que des DJ sets.
Mmh. Oui, c'est vrai.
Enfin, là, c'est la course aux décibels, là, c'est un délire. Enfin, moi, dans mon quartier, j'habite rue Jean-Pierre Timbaud. C'est un concours de décibels. Après, c'est sympa, hein, mais c'est que des DJ sets à fond la caisse. C'est vrai qu'il n'y a plus trop le groupe de rock un peu pourri.
Qui reprend du Oasis ou des trucs.
C'était quand même fun.
Ouais, c'était
du coup, pour rebondir à ce que tu disais aux États-Unis, c'est aussi parce qu'il n'y a pas les structures, tu vois, c'est-à-dire qu'ici on est très structuré.
Oui, c'est vrai.
Et que donc là-bas, comme il n'y a pas les structures, ils doivent eux-mêmes créer, alors je peux parler que de la Nouvelle-Orléans parce que j'y étais, quand tu décides de faire un concert là-bas, qui n'est pas inscrit dans un des clubs de jazz qui ne sont pas très nombreux finalement, mais quand c'est pas là-dedans et que tu veux juste faire un concert, tu dois trouver la salle, tu dois toi-même ramener le matériel, et donc du coup, un bar, un café se transforme en salle de concert parce que de toute façon, il n'y a pas de structure prévue pour, donc ça, il ne se pose même pas la question, tu vois, et c'est aussi ça la beauté, c'est-à-dire qu'à la fois, bah du coup, tu as de la poésie et de la musique partout. Et en même temps,
c'est lié à un manque en fait
c'est
de
ça.
Cadre.
C'est lié à une dureté en fait. Ouais. C'est-à-dire que pour nous français d'aller là-bas, c'est le rêve parce que on va à l'opposé et on découvre d'autres modes de trucs et on se dit waouh, c'est trop bien, c'est inspirant. Mais pour eux qui habitent là-bas, c'est la galère de ouf, tu vois.
Et s'ils venaient en France, ils diraient putain, eux, ils ont des structures et des cadres, ils ont des musées,
ils
sont aidés.
Ils ont la Philharmonie qui fait une expo sur le hip-hop pendant 3 semaines gratuite si t'es chômeur, tu vois. Ouais. Donc c'est je dirais qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux, tu vois, et chacun y trouve son compte. Mais je suis d'accord avec toi qu'on devrait s'inspirer en tout cas de...
Ouais, je trouve que c'est vraiment la façon dont c'est présent dans le quotidien des gens, tu vois. C'est ça, moi, qui m'a marqué, en fait. Ouais. C'est que vraiment, à tous les niveaux, tout le temps, les gens, ils sont dans le son. T'es dans un resto en terrasse, t'as des gens, ils vont commencer à parler en Jay-Z, quoi, tu vois. Les mecs, ils commencent, en fait, naturellement, ils sont dans une discussion et tu les entends rapper, tu sais, et faire du passe-passe entre potes, tu vois. Je fais, putain, ah ouais, ok. Nous, tu vois, tu peux avoir ça, mais il va falloir que t'ailles dans des endroits où, spécifiquement, ouais, là, il y a beaucoup de zikos et tout, machin, tu vois. C'est pas aussi généralisé. Et je pense qu'effectivement, il y a des barrières chez nous. La musique forte, c'est pas forcément bien vu. La musique dans la rue, c'est pas forcément bien vu parce que c'est peut-être connoté aussi, genre, bah, les mecs qui sont dans la rue, qui jouent dans la rue, c'est des SDF ou c'est des mendiants ou c'est des whatever, tu vois. Je sais pas s'il y a.
C'est qu'il y a aussi un rapport à la danse, au corps, qui est hyper différent aussi. Mmh. Je pense qu'il joue beaucoup. Sur, tu sais, la musique dans l'espace public, quand elle fait appel au corps, à la danse, etc., elle est légitime, entre guillemets. En France, comme on l'a un peu moins, ça va un peu moins créer ce truc, tu vois. Je pense que ça modifie aussi, tu vois.
On est un pays plus sûr aussi. Tu vois, moi, je suis pas là-dedans. Attention, hein, je vais pas vous faire de la
propagande. Allez, vas-y. On est au lendemain des municipales, c'est le moment.
Rachida Dati, la sécurité.
Non, tu vois, genre, en fait, moi, je suis pro-carnaval à mort, tu vois, et mon rêve ultime, c'est qu'il y ait un carnaval à Paris, tu vois. Ouais. Mais la vérité, c'est que tous les carnavals où je suis allé, il y a eu un, voire deux morts à chaque fois. Ouais, et donc, t'es à la Nouvelle-Orléans, il y a un mec qui se fait écraser par un char. T'es au Brésil, il y a un mec qui se fait tirer dessus. Et on n'est pas dans ces pays-là, tu vois, on n'est pas dans des pays où...
Mais il y a le carnaval de Dunkerque, il y a zéro mort au carnaval de Dunkerque, les gars.
Il y a des gens ivres morts, c'est pas pareil.
Il y a un vrai équilibre pour moi, danger, sûreté, vie, non-vie, danse, tout ça, qui est lié, tu vois. Et donc, on est dans un pays qui... Tu vois, les latinos qui viennent chez nous, ils sont en mode, putain, je peux sortir mon ordi, je peux... Tu vois, ils viennent vivre chez nous parce qu'au final, enfin, pas tous, hein, évidemment, mais ceux qui viennent, c'est pour ce sentiment de sécurité. Et moi, je voulais vivre à Bahia, à Salvador, tu vois. Sauf que j'étais en flip, tu vois. Je flippais du coin de rue où tu te prends un gun sur la tête, tu vois. Et donc, faut, avec l'âge...
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore les baile funk de Rio.
Mais tu peux pas mourir, tu vois. Là-bas, tu peux mourir, quoi. À la Nouvelle-Orléans, on adore. Mais il y a quand même cette vérité. Tu peux prendre une balle perdue
au
coin d'une rue, tu vois. Si je passe là-bas toute ma vie, ils m'ont tous dit, tôt ou tard, t'as un gun sur la tête ou t'as un pote qui s'est fait tirer dessus. Et je crois que c'est intimement lié, malheureusement. Malheureusement.
Non, on n'a pas écouté. Ouais, Adrien, tu veux dire
par rapport, tu parles de musique et à quel point c'est ancré dans les différentes sociétés et tout. Je pense qu'il faut qu'on parle aussi d'éducation, en fait, parce que rappelez-vous de nos cours de musique, ne serait-ce qu'au collège, c'était quand même pas très inspirant. Et je pense que, en fait,
ça bouge,
si on veut que les enfants qui deviennent des adultes s'intéressent plus à la musique, en face eux-mêmes ou pas, ou essayent de soient plus curieux, ou qu'ils soient plus ancrés dans leur foyer, etc. Faut déjà leur donner envie d'écouter de la musique
On a reçu, nous, dans cette émission, justement, des profs de musique au collège, notamment, et pour essayer, justement, de taper un peu le cliché de la flûte holo, c'est horrible, tu vois. Et c'est vrai, quand même, qu'on a quand même... Alors, nous, notre génération, donc, c'est sûr, on s'est mangé des cours de musique nuls, avec du solfège chiant et qui parlait à absolument personne, et tous les enfants se faisaient chier, mais je pense que maintenant, moi, je vois ma gamine, elle a 14 ans.
Ouais, ça a changé.
Et elle étudie de la K-pop ou des trucs comme ça, ou même du jazz, etc., au collège, tu vois. Et des fois, elle me montre ses cours, je fais, ah ouais, on voyait ça, vous, c'est dégueulasse.
Et ce qu'ils jouent, des instruments.
La flûte, ouais.
Voilà, c'est ça le truc. Après, faut, enfin, c'est super de qu'ils écoutent de la K-pop ou du jazz.
Bah, disons qu'ils essayent de plus les raccrocher à des trucs qui plaisent aux enfants,
des choses de leur génération.
Il y a quelques cas, parce qu'on avait reçu, donc après, on avait reçu Nico, notamment Nico Olivier. Qui lui, par exemple, je sais que dans sa classe, il a quelques contrôleurs branchés à un séquenseur, etc. Voilà, on montre des bases de home studio.
Mais du coup, il y aura que des
variables en fonction des profs.
C'est des initiatives personnelles.
Ouais, je pense.
D'accord. Moi, je parle d'un système éducatif où on fait faire de la musique aux enfants, en fait, ensemble. C'est quand même. Enfin, moi, j'aurais adoré représenter mon collège dans un orchestre.
Ouais,
comme une équipe de sport, quoi.
C'est avec l'uniforme et tout.
Ah, comme les fanfares.
C'est trop cool.
On aurait été les meilleurs.
Oui, c'est vrai que ça dépend. C'est plus des initiatives isolées.
C'est-à-dire qu'en fait, quand même, dans le. Enfin, moi, je me souviens que du collège. On fait quand même quasiment tout pour te dégoûter, quoi. C'est quand même dur de vouloir être musicien, en tout cas de croiser quelqu'un.
Oui, d'avoir la vocation dans
l'école, au collège.
Même au conservatoire.
Et au conservatoire également.
Anne, toi, c'est.
C'est vrai.
L'apprentissage de la musique, la présence de la musique à l'école et tout. T'as un regard aussi sur tout ça ?
Moi, j'étais dans un lycée où il y avait un groupe de jazz dirigé par les élèves, que j'ai dirigé du coup sur ma première et terminale, et un orchestre.
C'était où ?
C'était à Claude Monet, dans le 13e. Ah ouais. Et c'est une prof qui s'appelle toujours Annick Chartreux, et qui nous faisait jouer. Du jazz, de la musique classique, des musiques irlandaises. Et après, le groupe de jazz, on était en autonomie. Donc, pour le coup, c'est moi qui choisissais le répertoire les deux années où j'ai dirigé cet orchestre. Mais du coup, moi, c'était au quotidien. Et en plus, alors, j'ai pas fait ce qu'on appelle Shams, c'est ça ? Les classes horaires aménagées. Mais j'avais, je sais pas, 12 heures de cours de musique par semaine où la prof, elle était incroyable. Plus l'orchestre du lycée, plus le groupe de jazz du lycée, plus moi j'avais plein de groupes à côté.
C'était un contexte plutôt favorable.
Pour le coup, moi j'ai eu la chance de jouer de la musique et en fait elle m'avait même filé les clés de la salle. Et donc le midi j'allais à la cantine, je mangeais en 2-2 et j'allais bosser ma batterie avant que les cours reprennent.
Mais du coup, t'es allé dans ce collège, c'était parce que c'était la carte scolaire ou c'est parce que tu savais que à Claude Monet dans le 13e il y avait.
L'accompagnement musical.
Ça a été un peu. Ma mère habite avenue d'Ivry. Normalement, j'aurais dû aller à un autre lycée du coup qui était à côté. Mais comme j'avais plutôt des bonnes notes et que j'étais musicienne et qu'il y avait l'orchestre, on allait rencontrer la prof et qui a dit ouais, ok, le batteur de l'orchestre, il part à la fin de l'année. Viens, on va s'arranger pour que tu puisses. Pour que tu puisses rentrer là, même si normalement tu devrais être dans le lycée à côté. Mais c'était quand même dans le 13e. Mais c'est vrai que du coup, c'était extraordinaire. Puis on chantait beaucoup. Pour le coup, dans mes années d'études, j'ai vraiment baigné dans la musique.
Tu vois ?
Contre-exemple.
Mais
je suis ravi.
Mais qui est certainement pas la norme.
Je suis content d'avoir. Oui, c'est sûr, c'est pas la norme, mais je suis content d'entendre ça. Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui sont devenus professionnels ?
Il y en a plein.
Flavien Berger, il était à Claude Monet.
Dans les jazzos, il y a Manuel Rochman, Jérôme Sabag.
Vous voyez que ça, c'est un résultat quand même.
Chanteur Laurent Naouri. Après, c'était un lycée où il y avait plein de. Il y avait aussi des comédiens. Okay. Et donc, il y a aussi des. Enfin, il y a eu pas mal de monde qui est sorti de là. Mais en tout cas, chez les jazzos, ça a eu un.
Un impact.
Ah ouais, carrément. Thomas Savy.
Ok.
Principe basique de sociologie, hein, c'est valable pour plein de pratiques, plein d'apprentissages, etc. Bah, tu regardes dès l'école primaire, les enfants ensuite, leur catégorie socio-professionnelle plus tard, etc. Tu vois déjà qu'il y a des liens entre l'école primaire qu'ils ont fait.
Moi, c'est le bon exemple. J'étais à Saint-Méry, c'était vraiment une école spéciale.
Ils ont tous fait des écoles.
C'est pour ça qu'il aimait les synthés.
Je suis jongleur.
Moi, j'ai clairement fait que des horaires aménagés. Donc oui, j'ai été que dans des classes spécialisées. Mais en primaire, j'étais dans une école un peu spéciale où vraiment tout le monde est artiste aujourd'hui, quoi. Genre, je m'entends mieux avec tous les gens de ma primaire qu'avec le collège, le lycée. Et ma copine, je l'ai rencontrée en primaire. Sa meilleure amie, elle est photographe. Je croise un pote l'autre jour, il travaille pour Hermès, il dessine. Et c'est que ça, en fait. Et c'est vrai qu'on était dans des classes très spéciales à l'époque où on te responsabilise très tôt. Justement, il y avait des activités autour de la musique où je me suis retrouvé à faire de la batterie devant toute l'école en CM2 dans la semaine de musique où tout le monde ramenait son instrument et tout le monde faisait. Et donc, tu découvres ton pote qui en fait du violon et l'autre qui machin.
Quel privilège.
Mais moi, j'arrive avec ma batterie, t'imagines. J'arrive avec ma batterie dans le hall de l'école 4 ans plus tard et
il me connaissait, Tiss, tu vois, et d'un coup, il voit Tiss avec ma batterie. Mais le choc, je m'en souviens, quoi. Je m'en souviens du moment où tous les enfants viennent autour de moi et moi, je suis en mode, genre, je suis au max, quoi. Mmh. Et ça a clairement défini tout ce qui allait se passer après, parce que je fais mon concert devant toute l'école. Je suis en mode, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je pars en courant de là parce que j'ai un match de foot. Je signe mes premiers autographes à 8 ans et t'es en mode, genre, c'est ça que je vais faire, c'est évident, tu vois.
Adrien, il se dit, et moi je n'ai rien eu.
Non, mais moi, c'est très bien,
on est privilégiés, nous.
Non, mais ce qui ne t'a pas empêché de sortir des albums.
Ouais, ouais. On va écouter quand même,
le Bel Jazz Club volume 2. un morceau que t'apprécies en partie. Tu les aimes tous, forcément, on le dit.
Mon préféré, je dirais que c'est Gratitude.
Ah ouais, pour de vrai, c'est vraiment un préféré?
Ouais, je pense, ouais, celui dont je suis le plus fier, je crois.
Ah, trop cool.
Ouais. Bah, Gratitude, en plus, ça tombe bien. C'est... Ouais, ouais, c'est on est dans la discussion.
Tu veux nous en parler un tout petit peu avant?
Pas forcément.
Ah bon, c'est vrai. C'est cool. On n'est pas obligé d'en parler longuement parce que c'est une scène qui est un peu connue, mais on a quand même un peu évoqué la scène londonienne et tout, qui a quand même une place particulière, en tout cas en termes de présence médiatique. J'imagine aussi en termes de stream, de concerts, etc., de vente et tout, parce qu'elle est quand même bien mise en avant cette scène. C'est quoi votre regard sur tout ce qui est justement, enfin c'est assez fou parce que c'est Broken Beat, c'est influencé par la musique électronique UK, c'est aussi influencé par la grime, etc. C'est vraiment un terreau spécifique. On parlait du fait qu'aux États-Unis, il y a un terreau spécifique, en France aussi, en Angleterre aussi. Et cette scène londonienne, est-ce que vous, il y a des noms quand même que vous aimez sur cette scène, ou c'est presque devenu trop mainstream déjà aujourd'hui? Il y a un truc comme ça?
Moi, il y en a que j'aime beaucoup.
Ouais.
J'aime bien, en fait, il y en a un plus ancien, c'est Weto Kinch, que j'aimais beaucoup à l'époque, où justement, saxophoniste et rappeur, qui était arrivé avec un truc très, très raw, très pur à l'époque, moins commercial, très intéressant. Et je trouve que oui, il y a des gens, Joe Harmon Jones, tu vois, là, pour l'avoir vu en live récemment, il y a un côté très dub, reggae dans ce qu'il fait, et c'est très ancré, quoi. C'est des gens qui font de la musique. En fait, il y a du bon et du moins bon, tu vois, comme partout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont un peu élevé cette communauté à raison, et puis il y en a qui, derrière, ont suivi et qui ont profité, je pense, de ça, comme partout, tu vois. Donc il y a du bon et du mauvais, mais ouais, il y a des trucs cool. Même Youssef Dace, c'est un batteur exceptionnel.
Ouais.
Moi, il m'a prouvé, tu vois, genre, quand j'ai appris la batterie, j'avais un peu un truc de j'aimais pas les trucs simples. Je voulais que je travaille les trucs compliqués. Et en fait, lui, il m'a prouvé qu'avec les choses simples, tu fais des choses merveilleuses, quoi. Et c'est impressionnant parce qu'il a vraiment pris des trucs très basiques. Ses doigtés, ses trucs, c'est que des trucs très linéaires, très simples. Mais il en a fait un truc tellement original que ça, c'est touchant, quoi, parce que Tu vois, c'est l'idée de signature. Quand t'entends un gars et que tu sais tout de suite qui c'est, mmh. bah, il a tout réussi. C'est l'objectif d'une vie, tu vois, qu'on t'entende. On reconnaît, quoi, tu vois.
Toi, tu citais Shabaka tout à l'heure, par exemple. Ouais. Il y en a d'autres
Après,
aussi.
Je dois t'avouer que c'est pas forcément une scène que j'ai énormément écoutée.
Ah ouais.
Après, je suis allée passer une semaine à Londres, là, en novembre, pendant le Jazz Fest, donc je suis sortie et tout. Il y a une trompettiste que j'adore, c'est Yass Ahmed. Okay. Mais que j'ai rencontré parce qu'on était sur la créa d'un bassiste qui s'appelle Michael League, qui est le bassiste des Snarky Puppy, qui avait réuni des musiciens et des musiciennes du monde entier. Il y avait Yaz, il y avait moi, il y avait plein d'autres gens. Elle, je l'ai rencontrée là, mais c'est pas une scène que j'ai vraiment diguée. Et je pense, par contre, en étant à Londres, je me suis dit que, en fait, à mon sens, c'est une scène, enfin, c'est une scène que j'ai envie de creuser, mais en live, plutôt qu'en disque. Après, c'est, en fait, j'avoue que c'est rare des disques qui me... Tu vois, enfin, en ce moment, les disques qui vont vraiment me faire triper, ça va être plus sur des scènes de pop, de folk, de, où je suis... C'est plus difficile pour moi en ce moment. Le... Mais en live, je pense que je vais...
Il n'y a pas d'album de jazz ces derniers temps qui t'ont marqué?
Bah, j'ai adoré les disques d'Adrien, par exemple. Mais tu vois, je te sers pas les pompes, hein, je te préviens tout de suite.
Je te connais.
Mais ouais, non, c'est sincère. En fait, il y a peu de disques de jazz où je me dis, voilà, où ça me bouleverse, où il y a un propos, il y a un truc qui fait que c'est différent. Mais ouais, je me régale plus en ce moment à écouter, tu vois, les disques de José González et Rival Console, ou tu vois, ou en fait j'ai besoin d'être surprise, ou alors que ça m'amène dans des terrains émotionnels très forts qui vont convoquer des trucs en moi qui font mais ouais, c'est je sais pas, peut-être je deviens blasée, mais en même temps en live je peux vraiment en live, quand il y a des musiciens qui sont vraiment dedans, je peux devenir folle.
Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le côté anglais, c'est-à-dire que je verrais plus en live, que tu vois, je faisais Joe Amon Jones en live, je crois pas que j'écouterais un album de lui. Et c'est des gens que j'ai eu la chance de côtoyer avec China Moses à un moment, donc ça m'a donné un input. Et donc j'ai la curiosité, mais c'est en live qu'ils sont merveilleux. Ils sont vraiment merveilleux en live.
Toi, Adrien, ton rapport à la scène londonienne?
Moi, j'ai pas écouté plus que ça. J'avoue, j'ai marrant, en diagonale parce que ça m'a vite un peu saoulé.
Pourquoi?
Bah, parce que j'ai l'impression que tout le monde parlait de ça. Et j'ai l'impression que tout se ressemblait, en fait, surtout. Donc c'était des copies. Donc,
pas d'originalité dans le...
À un moment, ouais, j'ai l'impression d'avoir rapidement fait le tour, en toute humilité, même si ça va pas se voir. Voilà, donc j'ai pas vraiment creusé, j'avoue, je vais être honnête. Hein,
est-ce qu'il y a des trucs, au contraire, qui ont grâce à tes yeux, que t'as trouvé hyper intéressant, peu importe d'où, des albums jazz que tu t'es dit, putain, il y a un truc qui se passe?
Alors, j'aime bien un groupe qui s'appelle Réservoir.
Ok. Comment t'écris ça?
En un seul mot, R-E-S-A-V-O-I-R. Okay. C'est un ensemble assez conséquent, je crois que c'est un gars, j'ai pas les noms en tête. Okay. Ça, je suis et j'écoute. J'écoute depuis un moment SML, mais ils sont devenus à la mode.
Donc j'arrête d'écouter.
Non, je peux pas arrêter parce que c'est très bien.
Ah ouais, vraiment.
Voilà. Donc small medium large. J'en ai d'autres, mais faudrait que je prenne mes notes.
Ouais.
J'ai pas retenu tout par cœur. Mais j'écoute de la musique. Hein. Je m'intéresse. Non, mais
moi, je suis impressionné. Hein. Je suis allé dans son studio et j'ai vu sa playlist Spotify. À chaque fois, je lui montre des petites pépites et il m'envoie que des délices. Et que des trucs que j'irai pas chercher moi. Et c'est toujours super intéressant. Ouais. C'est toujours dans des contextes ultra enrichissants. Donc, ouais, je recommande les playlists de ce monsieur.
Merci. Et ça fait partie du travail, je crois, d'écouter un max de musique et de rester un peu à la page le plus possible. Je pense que ça fait partie du job.
Je crois que c'est peut-être ça qu'on reprochait au jazz dans sa forme un peu classique, de gens qui ont leur corpus artistique et qui ne bougent pas trop et qui font les trucs comme on leur a appris à les faire. Je crois que c'est ça, c'est la curiosité. Mais enfin, de mon point de vue, c'est le truc qu'il faut faire dans tous les styles musicaux. Si tu fais une musique vivante, tu vois.
Réellement, si c'est ta passion, si t'aimes la musique, t'écoutes plein de musique, quoi, en théorie. C'est mieux. C'est peut-être, avant qu'on parle ensuite du côté plus métier, écosystème du jazz, etc., pour clôturer l'émission, là on a encore une grosse demi-heure devant nous. T'as cité Snarky Puppy.
Ouais.
Ça me donne envie de parler rapidement. Je sais pas si vous voyez un peu tous ces groupes. On pourrait parler de Vufpeck aussi, etc. Alors, qui sont pas réellement jazz, mais qui remettent la technicité quand même au cœur de leur musique, qui ont des acquaintances avec les univers jazz, etc. Vous les intégrez un peu dans la grande communauté de jazz, ou pas forcément, ces groupes?
Ah oui, oui. Ouais. Ouais, bien sûr. Enfin, En tout cas, pour moi, les musiciens des Snarkies, c'est des musiciens de jazz, clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc après, Wolfpack, j'ai moins écouté, mais je pense aussi.
Ils sont très fins.
Après, ils sont passés dans la stratosphère, un peu, tous ces groupes-là. Ouais.
On pourrait même rajouter des Louis Cole, des Jacob Collier, ouais, des gens comme ça, etc. C'est des gens qui vous parlent ou c'est justement trop mainstream? Regarde, je le vois, Adrien.
Ah, t'as dit Jacob Collier, il a fait quoi?
Non, mais moi, je vais dire que j'aime pas. Snarky Puppy, j'aime pas. Jacob Collier, j'avoue, il me sort un peu par les trous de nez. Je comprends pas trop le. Enfin, c'est trop, en fait.
Trop d'exposition, je pense, non? Surexposition de Jacob Collier.
Non, c'est pas ça, surexposition. Je sais pas, j'arrive pas
à rentrer dedans.
À être enthousiaste. Ça me fait rien du tout. Strictement rien, en fait.
Mais toi, Anne, tu parlais Snarky Puppy parce que t'aimes écouter leur musique?
Non, pas particulièrement. C'est juste que Michael, pour avoir bossé avec lui, je trouve que c'est un musicien extraordinaire. C'est pas un gros technicien, en fait. Par contre, il a une intelligence dans la musique et une intelligence en tant que leader de groupe qui est folle. Et c'est un mec qui est très ouvert, qui, tu vois, il a réalisé le dernier disque de Youssoundour, par exemple, mais la semaine d'après, il est avec Vary Chakri, Vania, je sais plus que son nom de famille, voilà, en train de réaliser son disque. Il bosse avec des musiciens Gnawa. En fait, il a une ouverture. Et tu vois, parfois, il m'envoie des mémos, tu vois, où il joue, ah, tu connais ce rythme, machin, ça vient de tel endroit. Enfin, tu vois, c'est cette ouverture-là. Après, Snarky, c'est pas ce que, tu vois, c'est pas forcément ma cam. Mais je trouve le musicien et puis l'humain assez extraordinaire, en fait.
Et est-ce que tu peux aussi nous dire ce que t'en penses de cette scène? Mais est-ce que c'est pas, je sais pas si en tant que musicien on a intérêt à ça, mais de se dire, tiens, ça va peut-être amener des nouveaux publics à une musique peut-être un tout petit peu plus avec des, même s'ils font pas du jazz directement, avec des musiciens de jazz, et donc ce qui peut être une porte d'entrée, par exemple, pour un nouveau public, je sais pas.
En tout cas, pour donner mon avis, moi j'adore Snarky.
Ok.
La première époque, là, j'écoute plus du tout. Et en fait, c'est pareil pour Jacob Collier, c'est pareil un peu. C'est que c'est des gens que tu vois en live, en fait. Enfin, Jacob Collier, j'avais pas une grande opinion de lui jusqu'à ce que je le vois en live. Et j'avoue que il se passe un truc. Il a une énergie, une présence qui m'a rappelé celle de Bobby McFerrin, tu vois. Et donc, c'est des gens qui, même quand j'ai eu la chance de le croiser vite fait, et tu vois la sincérité, tu vois, et tu vois la ferveur autour de ce gars-là qui fait du bien, quoi, autour de lui. Donc, moi, ça me touche, ces choses-là. Après, au-delà, je trouvais qu'un Wolfpack, c'est pas du tout jazz, je trouve. C'est très funk. Et en plus, très chanson maintenant. Et ils ont peut-être Tin Town, là, qui est vraiment le truc, l'hommage à Tin Town, qui s'en rapproche, tu vois. Mais c'est des petites références, quoi. Ouais. Mais au-delà de ça, parler après d'un nouveau public grâce à ça, non, je pense pas. Je pense que c'est juste des vagues de popularité ou des choses qui résonnent. Tu vois, un Louis Cole, il résonne avec ce qui se passe aux États-Unis, dans son sarcasme et dans sa manière de présenter la vie, tu vois, parce qu'ils sont dans cet état d'esprit-là aux États-Unis. Tu vois, ils sont dans cette espèce de désespoir, et lui, plutôt que de pleurer, il préfère en rire. Et donc, lui aussi, je l'aime bien, parce qu'en plus, il groove comme un malade. Et que je trouve qu'il.
Je l'ai vu en live, j'ai trouvé ça dingo.
Mais tu vois, limite, lui, c'est un peu le contraire. J'adore ses albums, mais je trouve qu'en live, il bâcle un peu. Et donc, en tout cas, quand il vient à Paris, parce que de l'avoir vu à Los Angeles en mode expé, c'était incroyable, et le mélange était super intéressant. Et c'était un peu genre, t'adores ou tu détestes, et j'adore ce concept-là. Mais par contre, j'adore son univers parce que c'est vraiment un univers de voilà, on est des losers et regarde, ouais, on n'est pas beau, on n'est pas machin, mais pourtant tu nous trouves cool, quoi. Et j'aime bien cette approche-là, tu vois, c'est déjà bien de l'avoir, cette approche. Enfin, c'est clair, quoi, tu vois. Et puis ouais, c'est un petit génie quand même. Quoi. Il fait tout seul, il produit tous ses trucs, quand même, quoi.
Tu vois, toi, un peu ces scènes ou pas du tout?
Pas du tout.
Ouais.
Il n'y a pas assez de boîte à rythme là-dedans.
Mais d'ailleurs, ça m'amène à, parce qu'on parle de jazz funk, enfin de funk, etc. Il y a eu une grande époque du jazz rock. C'est un truc qui a disparu ou moi je connais très peu, hein, mais
bah non, les Snarky Puppies, c'est du jazz rock.
C'est vrai que tu peux les intégrer en jazz rock, c'est vrai.
Ouais.
Mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un truc plus gros autour du jazz rock, non? Ou je délire? Ou...
Nous, on n'était pas nés, nous. Par exemple, le jazz rock.
Bah, c'est Weather Report et c'est cette époque-là, je pense, oui.
C'est une question de génération, c'est ça? On s'est pas pris le truc et donc, enfin.
Le baiser salé, non, mais le baiser salé a été une, a été le,
ouais, fusion,
a été vachement le fief de la fusion et du jazz rock. Et donc oui, il y a une époque, mais.
Ouais, on a quoi comme grand nom du jazz rock pour les gens qui nous regardent là? Et pour moi aussi.
Français ou international?
Comme vous voulez.
Ouais. Ultramarine, Sixon, tu vois, Paco Seri quand même avec ses groupes. Ouais,
ça reste quand même assez underground pour.
Oui.
Il faut penser à nos
méga
auditeurs.
Underground. Ah non, mais là par contre, clairement.
Non, mais genre, il n'y a pas un truc. Le truc jazz rock.
C'est Weather Report le meilleur,
ouais, okay,
le meilleur
Weather
exemple.
Report, d'accord. Okay.
Et c'est même pas que jazz rock. C'est juste.
c'est vrai que ça a mal vieilli peut-être. Il y a un...
Ouais, toi, tu disais, tu proposais des noms français, toi.
Non, je sais pas. Je réfléchissais. Mais ouais, c'est pas.
Mais souvent, on pense au guitariste. Comment il s'appelle là, tu sais, les deux là, ils étaient partout à une époque dans tous les festivals.
Américain.
Oui.
Mike Stern.
Oui, c'est Mike Stern. Oui, et du coup,
ouais, Mike Stern, Pat Metheny.
Voilà, c'est ça. Fond,
Pat Metheny.
Ouais, Pat Metheny, c'est quand même un nom qui a bon marché.
Herbie et Miles Davis ont fait le jazz rock à fond.
Ouais, tu trouves? Moi, je me rends pas compte. Pour toi, les Headhunters, c'est jazz rock?
Non.
Non.
Bah, du coup, c'est quoi Herbie? C'est quoi Herbie, du coup?
Bah, Herbie, il y a des albums même de.
Le tube, comment il s'appelle? Rock It. Voilà, Rock It.
Pour vous, c'est jazz rock, ça?
Je sais pas, mais en tout cas, c'est.
C'est quasi hip hop aussi.
Quand ouais, quand même, c'est pas très jazz rock, quoi. Ouais. Pour moi, jazz rock, c'est Mike Stern, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et voilà, Wayne Krantz.
Wayne Krantz, c'est bien.
Ouais, après, est-ce qu'on peut pas le mettre dans jazz rock? J'ai un trou de mémoire horrible sur ce guitariste américain, chanteur également, Zappa, Frank Zappa, c'est un peu jazz rock, non? Sur certains, alors il a fait plein de trucs hyper différents.
Est-ce qu'on peut mettre le mot jazz? Je sais pas.
Ouais, compliqué.
Ouais, si, quand même.
Ouais, pour moi, il y a eu des trucs.
On peut. Après, c'est vraiment, c'est du Zappa. Il y a que lui qui faisait ça.
Ouais, c'est vrai.
De rock progressif, musique contemporaine. Ouais. Mais bon, tout se mélange. Hein, ouais. C'est pour ça que les styles. Comme disait Anne, c'est relou en fait.
Bon, en tout cas, c'est pas.
En tout cas, le jazz rock, j'ai
conclu le chat.
Le jazz rock.
Désolé, bravo.
À ma manière.
Mais non, mais t'as eu raison. Ouais.
Non, le jazz rock, c'est fini.
Je crois que le jazz rock, c'est comme le ragga hip hop, c'est.
Il faut
le
laisser. J'ai envie de dire la meuf est dead.
Tu vois bien que moi, je vois du jazz rock, là où tu n'en vois pas, etc.
Oui, c'est vrai. Parlons. Pour terminer le podcast, enfin, encore cette demi-heure devant nous, mais. Un peu univers du jazz, presque un peu, j'ai envie de dire, déjà pour commencer, peut-être sociologie du jazz, dans le sens où, alors il y a les publics, mais aussi les gens qui le font. Est-ce qu'encore aujourd'hui, pour faire du jazz, on a compris que c'était un terme dans lequel on peut mettre plein de choses différentes. Partons quand même de ce principe-là. Est-ce qu'avoir une formation de jazz, ça reste quasi obligatoire? Est-ce qu'on peut avoir des autodidactes dans le jazz? Ou franchement, il n'y en a quasiment pas?
Oui, c'est possible. Tout est possible. C'est le principe. Enfin, moi, si je vais résumer le jazz à une chose, c'est que tout est possible. C'est la seule chose.
Parce que moi, de l'extérieur, je vais t'avouer que j'ai l'impression que beaucoup de musiciens dits jazz ont eu une formation jazz. D'ailleurs, vous êtes quand même beaucoup autour de cette table à avoir eu une formation jazz. Je vois aussi d'ailleurs beaucoup de musiciens pop qui ont une formation jazz derrière, etc. Enfin, j'ai l'impression quand même que globalement, c'est un truc, non pas qui t'assure une carrière, mais qui aide, et y compris quand tu fais du jazz, avoir cette formation, c'est quand même un gros plus, non ?
Bah oui, enfin ça te permet d'apprendre plein de choses en fait et de pousser. Je pense que c'est une formation qui permet d'être un meilleur musicien, ça c'est sûr. Après, je vois pas, mais enfin il y a forcément des musiciens autodidactes. Puis surtout aujourd'hui avec YouTube et machin, t'as accès à tout, tu peux prendre des cours en ligne. En fait, tu peux ne jamais être allé dans une école et apprendre et savoir faire mille trucs. Donc, il y a forcément. Après, c'est une manière d'apprendre la musique aussi, quoi. Où en fait, on t'apprend à maîtriser plein de choses et à jouer plein de styles de musique et à analyser et comprendre plein de styles de musique aussi, plein de différentes harmonies. Enfin, je sais pas, c'est une formation qui est très riche, en fait.
Parce que tu vois, il y a quand même. Enfin, moi, encore une fois, d'un regard extérieur, hein, je suis pas expert, il faut pas hésiter à me dire non, t'as tort. Mais j'ai ce côté quand même, tu sais, de. On est encore le jazz, on n'est pas loin des musiques dites savantes, où il y a quand même ce truc où avoir des bases, y compris théoriques, c'est quand même un truc qui va être valorisé, etc. Et où en fait, si tu veux ensuite vraiment t'en sortir dans le monde du jazz, bah, si t'as pas ça, j'ai l'impression que ce sera plus dur, quoi. Enfin, je sais pas.
Bah parce que c'est des styles qui, enfin, tu parlais de musique savante, je pense qu'on est en plein dedans. C'est-à-dire que t'apprends le jazz ou t'apprends le classique. Et après, sur ces deux bases-là, tu peux faire tout le reste, en fait.
Mais excusez-moi, est-ce que vous pensez que les musiciens des autres groupes n'ont pas appris la musique?
Pas de la même manière.
D'autres styles?
Pas de la même manière. Beaucoup plus.
Mais ils ont peut-être appris du jazz ou du classique pour faire autre chose. Tu vois?
Bah peut-être, ouais.
En tout cas, il y a beaucoup.
Ça existe les écoles de rock? Non, je sais pas.
Bah, ça existe, oui. Il y a des écoles où t'apprends plein de styles différents.
On est d'accord que dans le rap, dans la pop, dans le rock, globalement, on a beaucoup, beaucoup plus d'autodidactes, non?
Probablement, oui.
Ouais. Une école de rap, ça n'existe pas.
Probablement,
ça.
C'est.
Je pense qu'on connaît plus d'autodidactes dans la pop que dans le jazz, c'est vrai.
Oui. Non, mais t'as raison, mais.
Je pense qu'on n'a pas de transmission. On n'a pas beaucoup de transmission entre générations de manière orale, tu vois. Là où les Afro-Américains, eux, ils sont là-dedans parce que c'est leur survie.
Je suis pas d'accord avec ça.
Je crois que j'ai lancé un truc là-dedans.
Moi, j'ai grandi en tant que musicienne quand je faisais vraiment beaucoup de jazz et que du jazz. Moi, c'était Rhoda Scott, Escoudé, Alain Jean-Marie, Henri Texier. Moi, j'ai grandi avec les anciens, en fait, qui m'ont transmis, tu vois, quand je faisais jouer dans tous les clubs avec Alain Jean-Marie, il m'a transmis un truc que, franchement, jamais aucun prof au conservatoire ne m'a...
Oui, il a réussi à te faire passer.
Ouais, ouais, en fait, il m'a fait passer un truc... Et pareil avec Rhoda, en fait. Et Escoudé, c'était pareil.
Mais tu penses pas que t'es un peu privilégié là-dedans? Parce que moi, je trouve que, de manière générale, la jeune génération, aujourd'hui en tout cas, elle est pas du tout dans un rapport de transmission avec les plus anciens. C'est très rare qu'il y ait ce rapport-là, tu vois.
Bah, moi, je trouve que parfois, la jeune génération est un peu prétentieuse. Et n'a pas le respect des anciens qu'elle devrait avoir. C'est-à-dire, tu vois, il y a des musiciens, tu vois, plus vieux que nous... Peut-être on n'aime pas ce qu'ils font, mais en vrai, on a des choses à apprendre. Et de la même manière qu'on a à apprendre de nos anciens, de nos grands-parents, des vieux, en fait. Et on les colle dans des maisons de retraite, on leur parle plus, tu vois. Et avec les musiciens, je trouve que c'est pareil, en fait. On a énorme... Et je trouve que les jeunes musiciens aujourd'hui, ils ont une espèce de certitude, en fait. Tu vois, ils ont l'impression qu'ils sont en train de révolutionner la musique, de changer le monde, alors qu'en fait... Tu vois, ils sont là, ouais, moi je fais des trucs nouveaux, mais en fait, tu vois, moi j'ai écouté un groupe et tu vois, t'avais l'impression que c'était genre un truc de ouf. Et je leur dis, tu connais Soft Bass? Parce qu'en fait, on a vraiment Soft Bass que tu fais. Et genre, non, c'est quoi? T'es là, ah ouais?
Ah bah, ouais?
Tu vois, et pareil par rapport aux anciens, tu vois, je trouve que la jeunesse a. Et c'est une curiosité, en fait, d'aller voir les vieux. Et d'aller leur dire « apprends-moi, en fait ».
C'est un sujet très intéressant, et pour revenir peut-être plus à la musique précisément.
Moi, j'aimais bien ce débat sociologique.
Ouais, c'est intéressant, j'ai plein de choses à dire aussi, mais on n'a pas trop le temps. Mais Adrien, t'es pas allé complètement au bout de cette idée, tu sais, des autodidactes, de la formation, de ce rapport à ça au jazz. J'ai envie de même, tu vois, le rapport au savoir dans le jazz et tout, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc quand même. Par exemple, il y a des standards dans le jazz, tu vois. Toutes les musiques peuvent pas dire « on a des standards ».
C'est une musique qui a un code, qui a des codes, comme toutes les musiques. Et oui, toutes les musiques ont leur standard, mais pas au point où
en fait, tu sais, il y a 10 000 versions qui existent, interprétées par plein de gens différents. Quand on se retrouve en jam, on joue toujours le même truc. Enfin, pas autant.
En fait, c'est juste justement au contraire, faut le voir comme un endroit où on se retrouve pour pouvoir jouer ensemble et communiquer. Bah oui, les standards, c'est une chanson avec des accords en dessous, au-dessus, comme tu veux. Et puis après, bah, on improvise sur ces accords-là. Et puis voilà, ça nous fait un terrain d'entente, un terrain de jeu. C'est comme ça qu'on aborde cette musique, quand même, globalement. Mais ce serait, je comprends pas trop la direction de la question, c'est-à-dire...
Il essaie de te piéger, je pense.
Non, absolument pas. Non, ouais,
tu penses que c'est un problème? Que
non,
ça
je
soit,
sais pas. Je trouve, en tout cas,
qu'il y a des choses à apprendre ou que ce soit une musique qui requiert un peu de recherche intellectuelle et...
Non, c'est plutôt sa spécificité, en fait, plus que ce soit un problème ou non, tu vois. Après, par contre, il y a la question de la démocratisation, entre guillemets, et de l'accessibilité de ça, effectivement, ça c'est...
Bah, c'est une musique rigoureuse, bah, c'est sûr, qui demande du travail, peut-être plus que d'autres. En tout cas, pour en devenir un spécialiste, si encore il y a des spécialistes de cette musique, mais... ouais, c'est une musique plus exigeante, comme j'imagine que la danse classique est plus exigeante que juste bouncer sur le trottoir, sur de la zikmu.
Moi, je pense qu'on parle dans notre contexte, en France, parce que ça a la place que ça, mais voilà, pour qui, enfin, tu vois, aujourd'hui, tu parles de musique cubaine, si tu parles aux Cubains, ils vont dire, bah non, c'est la vie pour nous, c'est pas exigeant, c'est juste ce qu'on vit, quoi. Et donc, nous, comme c'est un peu détourné, que le jazz est quelque chose de plus intellectuel parce que ça vient d'ailleurs, et qu'on l'a intellectualisé, forcément, ça donne l'impression de demander cette exigence parce que c'est pas dans notre vécu, c'est pas dans notre patrimoine. On en revient au même débat, mais enfin, je suis d'accord avec lui, en même temps d'accord avec toi, et pas d'accord aussi.
Il y a quand même eu des courants dans le jazz qui étaient volontairement élitistes et,
ouais,
et plus compliqués que d'autres pour mettre à l'amende les autres musiciens, les mettre à l'écart et créer une communauté. Ça, c'est pour le coup, c'est à la source.
Est-ce que, par exemple, dans les musiciens de jazz que vous fréquentez, tous les milieux sociaux sont représentés?
C'est une bonne question. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de noir et d'arabe dans le jazz. Il n'y en a pas assez, en tout cas. Il y a des Antillais, mais il n'y en a pas beaucoup. Et justement, on parle des femmes, hein, et c'est très important aussi. Mais il en manque terriblement. Et je suis confronté à ça en ce moment, où je me dis souvent, je me rends compte...
On parle des musiciens, là.
Ouais. Je dis à tous mes potes, en fait, je suis votre seul pote. Je suis même pas noir, mais je leur dis noir parce qu'en fait, t'as pas d'autres potes noirs, quoi. Et je trouve que c'est vrai, quoi.
Dans le jazz, c'est vrai. C'est étrange en plus.
Alors c'est une musique afro-américaine, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et encore une fois, en ce moment, on parle des femmes, et c'est très important ce qui se passe par rapport à ça, et c'est un enjeu majeur.
Bien sûr.
Mais quand on parle de minorité, il va falloir encore plus...
Minorité de genre.
Tu vois, minorité de genre, et minorité... Mmh.
C'est, est-ce que, alors dernière ma question, on peut mettre effectivement les personnes racisées, mais même de manière générale, les origines sociales, etc., on peut parler aussi, pourquoi pas, de la place des femmes. C'est un univers qui est mixte ou...
Toi, Anne, c'est masculin, non ?
Je sais pas trop, parce que je demande pas aux gens s'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche ou pas.
Non, mais tu le vois, Anne. Tu le vois. Tu...
Bah, il y en a certains, oui, c'est sûr que ça se, ça se voit. Mais à vrai dire, je sais pas bien répondre à cette question.
Non, mais t'es pas obligé de répondre.
Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, mes parents étaient profs. Je viens pas d'un milieu favorisé. Je sais pas pour vous, les gars, mais après, t'as des musiciens qui sont issus de... grande famille de musiciens, de... enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout. Après,
pas trop de gars des quartiers.
Ouais. Non, ouais, ça, globalement. C'est vrai. Ouais, ça c'est vrai.
Moi, je suis, pas obligé de le dire d'ailleurs.
C'est quoi donc ?
Non, mais mon origine sociale.
Si, bien sûr.
Ouais, non, mais ça
t'es pas obligé. Non, c'est pas envie de.
Déjà, on... entre nous trois, déjà, on voit un peu les différences. Moi, je suis fils de médecin. Voilà. Mmh. Pour le coup, des gens qui ne faisaient pas de musique spécialement, qui s'y intéressaient pas. Et les gens que je fréquentais à l'époque, parce que moi je suis là, je suis droppé dans une émission de jazz, mais parce que je viens du jazz, mais c'est vrai que il y a des questions où je suis pas forcément le plus habile pour répondre, parce que je côtoie plus trop en fait cette communauté.
Ouais. C'est des volontaires ou c'est...
Ça s'est fait naturellement, parce que j'ai fait d'autres musiques en fait, et voilà, ça c'est.
Et tu t'y retrouves plus dans les autres, t'as pas, c'est parce que c'est aussi un truc volontaire.
Ah non, pas du tout, non. Okay. C'était, j'ai monté d'autres projets qui étaient moins jazz, et donc fatalement je me suis écarté de cette communauté, mais j'ai toujours suivi de loin, et puis là voilà, avec ces deux disques, je suis validé, je passe sur TSF, c'est n'importe quoi, c'est assez drôle. Mais
voilà, ça t'apporte un regard justement sur les différentes communautés en fonction des esthétiques musicales, parce qu'il y a des liens sociaux entre les musiques. Quand même, tu vois, il y a des esthétiques qu'on retrouve plus. Bah, tu parles des quartiers, etc. Tu vois, il y a un lien, par exemple, historique avec le rap qui est indéniable, tu vois.
Ouais.
Toi, tu dois bien le voir, effectivement. Déjà, de dire, par exemple, dans le jazz, on voit peu de gens des quartiers populaires, ça dit quelque chose. Est-ce que ça peut être en lien aussi avec la discussion précédente, à savoir autour de la formation, qui est exigeante, qui demande peut-être un peu de moyens aussi. Il faut avoir un conservatoire.
Il faut avoir du temps.
Bon, alors, même s'il y a plein de conservatoires qui proposent des aides pour accueillir plein d'enfants, etc., bien entendu. Hein. Mais après, il y a les barrières
mentales.
Bah, voilà, c'est ça, sociologique.
Tu
vraiment,
passes pas à la porte du conservatoire. Parce que
et puis, c'est pas un rêve. De fortune, de devenir musicien de jazz, c'est pas une promesse d'argent en fait, ou de, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est sûr que les gens qui sont le plus dans la misère ont envie de s'en sortir et visent plutôt.
Ils vont pas devenir riches avec le jazz, c'est ça?
Riche de cœur, c'est pas probable.
J'espère pour eux, mais c'est plus compliqué que. Ouais. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est souvent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des potes ou des copines qui sont des enfants de musiciens ou d'artistes en général, qui donc, voilà, naturellement, baignent dans un univers plus artistique à la maison, voilà, sont attirés par ça et sont sensibilisés en fait.
Bien sûr.
Mais bon, c'est vrai que après, ça demande un accès à des études en fait, c'est des études comme d'autres.
Et alors, parce que là, on parle des gens qui pratiquent. Mais les gens qui viennent écouter le jazz. Toi, Adrien, t'as lancé récemment les soirées contrebande, par exemple, où l'idée, c'est d'ouvrir justement avec une programmation éclectique, etc. Ça se passe à Belleville, c'est ça ?
Ça se passe au Relais de Belleville, ouais, une fois par mois. C'est le cinquième mois qu'on fait ça, là. Ouais. J'ai monté ça avec deux potes musiciens, Pierre
Antoine. Trop bien.
Et vous êtes invités à venir.
Ah oui.
Avec Pierre Antoine et Marc Antoine Perriot et David Basso. Et en fait, l'idée, c'était de se bouger, de faire des choses pour essayer de se réunir et de faire de la musique. Et là, donc, on a trouvé ce lieu, Relais de Belleville. Je voulais un endroit qui peut rappeler un peu la fontaine, parce que c'est au rez-de-chaussée, en fait, on voit de la rue. Et ça, c'était intéressant pour moi, parce que je voulais vraiment que les gens puissent rentrer, passer dans la rue de Belleville et voir, entendre, dire, ah, il se passe un truc, et que ce soit pas dans une énième cave ou caché, quoi. C'est gratuit. Ça aussi, c'était important. Et la programmation, on s'en occupe, donc là on se positionne en curateur, quoi. Et la singularité, c'est qu'on enregistre les concerts en live sur bande avec un magnétophone, qui après va sur un bandcamp. Et je pense qu'à la fin de l'année, je ferai une compile sur vinyle, ouais.
Et alors ces publics du jazz, les gens qui viennent, qui peuvent fréquenter. Alors toi, c'est un peu particulier ce que tu proposes, Adrien, mais globalement les concerts. Les jams, etc. Est-ce qu'il y a un peu de diversité? Est-ce qu'on peut faire un peu des règles? Ou en fait, non, en réalité, ça dépend complètement. Difficile de donner comme ça des règles.
Il y a tout, en fait. Ouais. Après, il y a, tu vois, si tu prends juste Paris, tu peux avoir un lieu comme la gare, où tu vas avoir que des jeunes, où la bière, elle est pas chère, où l'entrée, elle est gratos, tu mets ce que tu veux dans le chapeau. Je veux dire, il n'y a pas eu de volonté de faire un truc design, ils ont juste pété les murs, laissé, tu vois, il y a un truc hyper facile d'accès. Après, si tu vas dans les clubs, dans certains clubs, tu vas payer 30 balles l'entrée, donc là, tu vas avoir plus des gens plus âgés, qui ont des sous. Après, quand tu vas en province, en festival, en fait, il y a tout, quoi. Enfin, moi, je vois à mes concerts, j'ai des gens de 7 ans, vraiment. T'as des gens qui viennent avec leurs gosses jusqu'à 77 et pas mal de trentenaires, quarantenaires. Enfin, c'est assez...
Et ça évolue avec le temps, t'as l'impression, depuis le début de ta carrière?
Moi, j'ai l'impression de rajeunir mon public. Qu'avant, à un moment où je faisais des disques plus jazz pur, même si j'ai jamais vraiment été dans cette case complètement, mais... plus dans le truc plus jazz, officiellement jazz, j'ai l'impression que le public était un peu plus vieux et que à chaque album, j'ai l'impression de drainer un peu des gens plus jeunes. Mmh. Et ça, c'est cool. Mais j'aime bien l'idée d'avoir... Et parfois, tu vois, avec ce disque, on a des moments où c'est bien boum boum et ça peut partir bien expérimental. Et parfois, je me dis, waouh, comment les gens qui sont un peu âgés, comment ils vont réagir à ça? Et en fait... bah eux, ils ont connu en fait les Doors, ils ont, enfin tu vois, on se fait toujours, mais voilà, j'aime bien l'idée de brasser un peu des publics différents, quoi. Donc, mais c'est un, voilà, après typiquement à Paris, t'as le truc des clubs où en fait tu payes cher ton entrée, en tout cas certains clubs, et du coup bah forcément tu peux pas avoir des jeunes, mais...
Et on sait qu'il y a des inégalités de territoire parfois. Est-ce que toi, c'est un truc que tu peux observer? Est-ce qu'il y a des lieux qui sont mieux pourvus en termes d'endroits où on peut expérimenter le jazz, enfin, tu vois, vivre du jazz, ou ça dépend? Enfin, tu vois, en France, est-ce que par exemple Paris, clairement, il y a une offre beaucoup plus importante qu'ailleurs? Est-ce qu'il y a des territoires déserts pour le jazz? Je sais pas, tu vois, en France.
Ah, bah, il y en a forcément, oui. Ouais. Il y a des endroits où il n'y a pas un seul. Enfin, tu vois, je me faisais la réflexion. Alors, je dis pas que c'est un territoire désert, mais j'ai plus joué à Rangoon en Birmanie qu'à Bordeaux. Enfin, tu vois. Il y a plein de villes comme ça. T'as des villes. Toulouse est une ville assez active. Marseille aussi, ils ont un super festival. Enfin, tu vois, t'as des villes qui se bougent, mais évidemment, t'as des régions où t'as des salles et des programmateurs et programmatrices qui se bougent pour aller aussi chercher les gens sur le territoire, qui vont faire de la médiation, qui vont bosser avec les collèges, les lycées, les écoles, les maisons de retraite et qui vont essayer de brasser. Mais non, ouais, c'est variable, quoi. C'est dur comme question.
Ouais, oui, c'est vraiment des regards en tant que professionnel, c'est-à-dire ouais. Que c'est pas un universitaire qui a fait des recherches, machin, etc. Mais c'est juste vos ressentis, vous, c'est votre métier, quoi.
Ouais, j'ai plus joué à Rangoon qu'à Bordeaux, je trouve que c'est parfait.
C'est vrai que Bordeaux, il y a un truc, j'ai l'impression qu'avec Bordeaux, ouais, c'est un bon exemple.
Tise-toi, ouais, sur ce truc un peu des publics du jazz, est-ce que t'as l'impression qu'il est divers, ce public?
Bah, comme il disait, il y a plein de cas. Pour préciser, la gare, c'est devenu étrangement plein de jeunes étrangers.
Ouais.
Okay.
C'est très curieux, il y a vraiment que
beaucoup
des étrangers.
Ouais. Ouais.
Okay. Mais vraiment beaucoup de jeunes, quoi. C'est assez ouf. Je sais pas comment ils ont fait comment on en est arrivé là, mais c'est petit à petit ça s'est fait, tu vois. Et après, bah, tu vois, j'étais au Musée Salé hier, je jouais pour la jam, et je suis toujours émerveillé par mon club parce que c'est vraiment tous les âges et aussi toutes les origines. Mmh. Et c'est pas un cliché, quoi. C'est vraiment très mélangé. Là où je pense que dans les autres, ça allait peut-être un petit peu moins, mais c'est aussi une histoire de prix, c'est une histoire de culture, de quelle musique tu joues, c'est normal. Donc, en tout cas, pour notre club, le BSL, ça n'a pas changé. Ça a toujours été comme ça.
Pas d'évolution sur en 10 ans?
Je pense que ça s'est peut-être rajeuni un peu. Parce okay. que, comme il dit, le jazz est devenu un peu cool, tu vois. Et du coup, et je pense que ça va l'être de plus en plus, tu vois. Je pense que l'image du jazz est en train de changer et que je peux parler qu'au niveau de notre club, parce que j'y travaille un peu maintenant. Le club est en train de changer d'image aussi. À tel point où moi, j'ai envie d'enlever le mot jazz. Tu vois, j'ai envie que ce soit juste le BSL. Parce que je trouve que le mot jazz en France, il représente un truc très commercial et que j'ai envie de me détacher de ça. Et au même titre, tu vois, je suis un peu... Enfin, c'est bien que t'aies amené ces deux-là parce que je suis un peu jaloux de ce qu'ils font tous les deux. C'est-à-dire que j'aimerais être en tournée comme Anne avec mon groupe toute l'année. Et en même temps, ce que tu viens de faire avec Contrebande et tout, je trouve ça génial. Et ces initiatives-là, c'est super important, tu vois, dans la ville, tu vois.
Et bah, Contrebande, est-ce qu'il y a aussi l'idée, justement, ou pas du tout, tu me dis, hein, mais d'ouvrir un public un peu différent, qui a moins l'habitude, peut-être?
Bah, complètement. En fait, à partir du moment où c'est gratuit, déjà, y a la porte est plus ouverte pour d'autres gens.
Donc, tu pars d'un constat, quand même, où tu te dis, ça manque.
Je sais pas si ça manque... Oui, probablement. Ouais.
Ouais. Bon, là, je voulais le faire dans mon quartier, donc à Belleville. Et je voulais vraiment créer une communauté, quelque chose de bienveillant, de vraiment de chaleureux. Je dis pas que c'est pas le cas dans les autres clubs, hein, mais en tout cas, moi, c'est ça que je voulais faire. Et vraiment dans un lieu de vie. En fait, on s'est équipé, on a acheté des choses, on a créé une scéno avec une pote chef déco dans le ciné. On s'est pris la tête à faire une belle image. C'est pensé, hein, c'est pas juste. On parle par rapport au marketing et tout ça, la connexion. On est en plein dedans. L'Instagram de Contrebande, il est taffé. Chaque post est taffé.
C'est toi qui fais ça.
C'est un des gars de Contrebande, ouais.
D'accord. Voilà. Mais
ça joue dans l'image du projet et ça attire des gens, en fait.
Ouais, c'est très bien fait.
Mais l'initiative, donc, c'était pour faire de la musique ensemble.
L'initiative, c'est avec les Marco et Pierre. Dire, moi je fais des tournées de Zénith et en fait je joue pas assez de jazz et j'aimerais bien rejouer dans des petits espaces où je suis vraiment près des gens et finalement c'est ça que je préfère, je crois. Et on s'est dit en fait on joue pas assez de façon un peu paradoxale.
Ouais.
Et voilà, donc on s'est dit il faut qu'on soit un peu moteur là-dedans aussi. À l'image de la gare, qui est un bon exemple, qui est quand même assez exceptionnel dans Paris, qui est un lieu, donc un ancien squat. Il y a des concerts tous les jours, tous les soirs, et aussi du clubbing.
Avec le gore, justement.
Ouais, voilà, exactement. Donc, les concerts en haut, c'est gratuit. Et donc, avec une programmation aussi qui était déjà quelque chose de différent par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les clubs de jazz plus traditionnels. Bon voilà, nous on s'est dit on va faire ça à notre échelle au Relais de Belleville. Et donc la fréquentation du Relais de Belleville, c'est beaucoup de musiciens, de musiciennes, pas mal d'artistes, de peintres, de gens qui font de la vidéo, du cinéma, etc. Mais des gens du bar en fait, des gars du quartier qui sont là et puis qui commencent à revenir. On est en train de fidéliser des gens. Après je sais pas où ça va aller, pour l'instant ça se passe très bien, c'est rempli à chaque fois. Bon c'est pas compliqué mais en tout cas ça les intéresse, ça les touche. Et en fait, moi, je crois assez au fait que le jazz, c'est peut-être une musique élitiste, pas forcément facile d'accès au premier abord. Mais je crois que le live est un vrai levier. C'est sûr. En fait, pour avoir joué quelques fois à la gare aussi, et des musiques pas forcément simples, devant plein de gens, de jeunes, en fait, les touristes, ils sont là parce que la gare a des très bonnes critiques dans des guides touristiques. Guides, ouais. Notamment, ils ont un article dans The Guardian, et c'est pour ça aussi, en fait, qu'il y a plein de jeunes.
D'accord.
Et des touristes. C'est vrai que c'est rempli de ça, parce que c'est un endroit aussi très cool, pas cher.
C'est devenu un peu cher.
Peut-être, ouais.
Je sais pas. Ça a monté un peu les prix, petit homme.
Mais sans bourgeoise.
C'est Paris, hein.
Ça reste quand même abordable, j'ai l'impression. Et en fait, les retours des jeunes, on va dire, après le concert en question, c'était, ils étaient dithyrambiques, mais en fait, tu sais très bien que ces gens-là, si t'avais mis une place à 20, 25, 30 euros, jamais de la vie tu les aurais eus. Donc en fait, il faut les choper comme ça, en fait. Il faut leur mettre la musique comme ça, live, et c'est pour ça aussi qu'on voit des vidéos, par exemple des Snarky Puppies, ou d'autres trucs, on voit des vidéos à LA et tout, où t'as un groupe au milieu, tout le monde est autour, et ça joue, ça shred dans tous les sens, et les gens sont comme des oufs et tout. Il y a un côté performance qui attire les gens. Alors nous on fait pas ça à Contrebande, mais ça passe par le live. Je suis assez persuadé que on peut convertir, si je peux utiliser ce mot, des gens à cette musique pour en tout cas leur donner envie de revenir ou de se dire ah mais attends j'ai bien aimé ça, ça vient d'où, leur donner des réponses ou des pistes pour écouter des disques majeurs ou en tout cas les initier. Voilà, moi c'est ça le Contrebande, c'était ça l'idée.
Et du coup, ça, dans la programmation des morceaux que vous faites, justement, il y a un peu ce truc-là aussi de balancer des classiques pour...
Alors, dans la programmation, il y a plusieurs contraintes que j'impose. Je veux que ça soit un répertoire travaillé. Je veux pas de jam. Je veux pas que ce soit des... Je veux pas. Je veux pas de partition. Et je veux que les gens travaillent, en fait. Je veux qu'ils fassent un effort. Alors, soit ils viennent jouer du répertoire qu'ils ont composé eux-mêmes avec des projets existants... ça marche, mais je les pousse vivement à, pour l'occasion, monter des formules inédites et tester des répertoires autres qu'ils auraient envie de reprendre, une musique de film, une musique de dessin animé, ce qu'ils veulent, de jeux vidéo, peu importe, dans des formules qu'ils veulent. Voilà, donc c'est ça l'idée, qu'il y ait une vraie proposition artistique et que ce soit pas juste une scène ouverte où ça va jamais.
Donc il y a un truc éditorial quand même assez drivé, quoi.
Oui.
Okay.
Ça peut nous amener à discuter.
du business, de l'oseille.
Ouais, on peut pas, parce que là on parle de musique live, etc. On peut parler aussi un peu de l'économie autour du jazz aujourd'hui. Vous, par exemple, Anne, peut-être qu'on peut en discuter avec toi pour commencer. La musique live représente une grosse part de votre façon de vivre, tu vois, des revenus que t'as, etc.
Ouais, oui. Après, moi, je gagne bien ma vie aussi avec le droit d'auteur. Parce que je compose la musique de mes albums. Après, je partage avec, tu vois, les gens, enfin, les paroliers, etc. Et j'ai pas d'éditeur. J'ai toujours freiné des cas de fer avec ça.
Parce qu'on le rappelle, vraiment, tu te produis toi-même, tu as ton propre label.
Ouais, j'ai une asso en fait avec laquelle je produis mes disques et j'appelle plein de gens pour bosser avec moi, quoi. Mais du coup, ouais, je garde 100% de mes droits éditoriaux, ce qui change pas mal la donne. Donc évidemment, c'est les concerts, mais aussi la SACEM. Voilà, parce que c'est aussi ça permet aussi de choisir ce que je fais. À une époque, j'ai accompagné beaucoup de monde. J'ai accompagné Jeanne Adède, j'ai accompagné Mélissa Lavaux, j'ai bossé avec le chanteur des Têtes Raides aussi, Christian Olivier, et puis avec Clara Isée. J'ai aussi, un peu comme les deux, pas mal bossé avec d'autres esthétiques. Mais là, ces dernières années, j'ai eu vraiment besoin de me recentrer, avoir plus de temps pour moi, pour me recentrer sur la musique, pour composer, pour monter des créations. Et du coup, c'est là que c'est cool d'avoir du droit d'auteur parce que ça me permet de jouer un peu moins et pourtant de continuer à vivre, quoi.
Te structurer avec ton propre label, ça a été un truc mûrement réfléchi. T'as été chez des labels où tu t'es dit ah vivement que je sois complètement solo.
J'ai été sur un même label pendant de 2008 à 2020 et en fait en 2020 on avait une réunion pour parler du prochain disque qui s'appelait Shaman à l'époque, qui est mon 7e. Et moi, je m'attendais, j'étais toute excitée, j'attendais la réunion avec impatience pour leur dire voilà les dates, les musiciens et tout ça. Et puis, en fait, à cette réunion, ils m'ont dit désolé, Anne, on arrête de bosser ensemble. Tes disques coûtent trop cher. Ça coûte trop cher, on gagne pas assez d'argent. Voilà. Et là, à cette époque-là, on était en août 2020. Personne signait vraiment des nouveaux artistes et encore moins une batteuse, compositrice. Enfin, tu vois, sur le papier, j'étais vraiment pas bankable du tout. Et moi, je voulais pas retourner sur un label plus petit que celui que j'avais. Et je me suis dit, en fait, je vais monter ma structure. Je vais m'entourer des gens que je pense être les meilleurs et je vais leur montrer qu'en fait, ils auraient dû me prendre et que c'était une connerie. Et j'ai bossé comme une malade. À cette époque-là, pendant les deux années de Covid, là, je touchais quasiment pas la batterie. Je bossais comme une tarée sur mes disques. Mais Shaman a été un succès assez incroyable. J'en ai vendu, je crois, 7500 CD et 1500 vinyles, ce qui est énorme pour une vente de jazz. Ce qui m'a permis de faire de la trésorerie pour produire celui-là derrière. Mais ça a été un boulot de malade mental. Mais je regrette pas parce que... Artistiquement, j'ai été libre d'un bout à l'autre et j'ai bossé avec les gens avec qui j'avais envie de bosser. Et j'ai défendu et je continue à défendre mes projets comme j'entends. Après, c'est dur parfois et c'est aussi beaucoup de pression parce que quand tu mets des milliers d'euros sur un disque, tu sais pas si ça va te vendre, si tu vas avoir de la presse, si les gens ils vont aimer, si tu vas pas perdre la moitié des gens qui te suivent depuis 15 ans parce que tu fais un virage. Donc c'est plein de questionnements et en même temps y a une grande fierté à faire ça moi quoi avec mes petites mains et
le fait d'avoir ta propre structure, j'imagine qu'il y a une part administrative, etc. Est-ce que tu t'es entouré aussi pour gérer ça? Est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que tu arrives à allier la musique qui reste quand même avant tout ton métier et en même temps, il y a plein d'à côté qui sont importants?
J'ai appris, pour Shaman, j'ai appris plein de nouveaux métiers. J'ai appris à me servir, des trucs cons, mais me servir d'Excel, faire des budgets pour déposer des subventions, me servir de InDesign pour faire des dossiers, pour envoyer, pour chercher des subventions. J'ai appris à me servir de Final Cut et maintenant de Adobe Premiere. J'ai appris à maîtriser tout un tas de trucs, à faire des posts Instagram avec les bonnes dimensions, les machins. J'ai appris tout ça. Après, sur Atlantis, j'en ai encore fait beaucoup, mais je me suis entourée cette fois-ci parce que on n'était pas en plein confinement et couvre-feu. Mais je sais que là, en ce moment, là, j'ai un peu tout mis de côté, tous ces trucs-là, et je me refocus sur la musique. Mais concrètement, aujourd'hui, avec un disque de jazz, si tu fais pas beaucoup de choses toi-même, c'est en fait, c'est, financièrement, c'est pas possible. C'est, en fait, si j'avais dû me payer pour le nombre d'heures que j'ai bossé sur mes disques, en fait, franchement, je serais riche. Franchement, ça serait voilà. Mais du coup, il y a une fierté. Mais oui, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais.
Tis, Adrien, vous, vivre de votre musique, vivre du jazz, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes obligé de multiplier les activités? Est-ce que, peut-être que vous aimez aussi, j'en sais rien. Comment tu vis, toi, de la musique?
Un peu comme les copains, c'est-à-dire que j'ai commencé à jouer pour d'autres. Et j'ai fait très peu de jazz, en fait, moi, finalement. Mmh. On m'a très peu appelé pour ça. Et du coup, ça a été un équilibre. Souvent entre mes groupes qui m'apportaient pas beaucoup de revenus en vrai, ouais. Et toujours pas encore hein, d'ailleurs. Ouais. Et mais surtout les tournées de Catherine Ringer, les trucs, tu vois, l'intermittence.
C'est ça qui te fait vivre.
C'était ça. Et maintenant, mais je suis vite arrivé au bout parce qu'en fait, tu plafonnes assez vite avec ces choses-là. Et en plus, les salaires n'augmentent pas, ils baissent clairement. Tu vois, depuis 10 ans que je fais ce métier-là, je vois pas d'augmentation. Au contraire, tu vois, là maintenant, ce qu'on te propose pour faire des zéniths et des Bercy et des choses, ça me paraît indécent, tu vois, ça me paraît indécent. Et donc, j'ai fini par arrêter de faire ce chose-là. Aussi pour ça, parce que déjà que c'était pas la musique que je préfère. Si en plus, tu t'enrichis pas en le faisant.
Il y a aucun intérêt.
Ouais, il y avait un problème, tu vois. Mais bon, c'est normal. On est dans un. Voilà, c'est aujourd'hui. C'est pas juste dans notre milieu. C'est comme ça.
Tu tournes plus avec Bonnie Banane, par exemple?
Bah, Bonnie, typiquement, financièrement, c'était affreux, quoi. Enfin, c'est un coup de cœur. Bonnie, c'est une des merci préférées. Et donc, je l'ai fait parce que je l'aime, elle. Et j'étais trop content de ce que ça m'apportait humainement, tu vois, mais je comptais pas là-dessus financièrement, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de dates en vrai. Mais c'est plus un coup de cœur artistique. Et donc, depuis quelques années maintenant, je suis plus justement dans le travail à travers Badabada et Tis Plus, de cette image qui, du coup, m'apporte du travail indirectement pour l'instant.
Qui prend quelle forme, ce travail?
Je sais pas, par exemple, là, il y avait Cézanne qui faisait une soirée privée pour ses salariés et ils m'ont mis à la direction artistique de ce truc-là, tu vois. Et donc là, forcément, d'un coup, tu parles de chiffres que inatteignables ailleurs et en une soirée, tu fais ce que tu ferais presque en un an, tu vois. Et donc, on a fait un truc avec pour Acné, pour la Fashion Week avec Bada. C'est des trucs comme ça. On travaille avec Hermès aussi, tu vois, on s'est retrouvé en Corée. Donc, c'est ce genre de truc qui complète très clairement. Et tu vois, Bada, quand on a monté Bada, on savait qu'on ne gagnerait pas d'argent, mais on savait que l'objectif, c'était de briller d'une manière en montrant ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Et que du coup, l'objectif pour moi, c'est qu'on m'appelle moi maintenant, qu'on m'appelle pas juste un batteur, qu'on se dise, on veut Tis. Et du coup, ça prend de la valeur. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est avoir cette valeur intrinsèque pour que quand on t'appelle, tu gagnes plus d'argent. Okay. Parce que sinon, justement, j'étais avec un ami saxophoniste qui est vraiment un puriste du jazz et qui galère, quoi, tu vois, alors que c'est un excellent saxophoniste. Et je lui dis, viens, on se voit, on se parle un peu juste pour lui parler de ces concepts-là, pour qu'il lui-même se rende compte de l'importance aujourd'hui de faire un album, même s'il va pas marcher, parce que ça te place.
C'est une carte de visite, toi.
En fait, t'existes pour des gens que sinon t'existes pas, tu vois, et ça t'identifie auprès de gens qui sont dans la même esthétique, et donc ça crée des choses, tu vois, et donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut faire, je pense, pour. Il faut se diversifier, quoi. Sauf si t'es Joshua Redman ou. Brian Blade, et que, enfin, en France, des musiciens de jazz qui vivent que de ça et bien de ça, c'est de moins en moins le cas, parce qu'en plus, ça se commercialise. Donc, comme ça se commercialise, il y a une espèce d'économie autour du jazz qui devient la salle de la pop, et donc il y a de moins en moins d'argent aussi.
Il y a de plus en plus d'artistes, peut-être aussi, non?
Je sais pas s'il y en a plus, parce que. Enfin, oui, je pense qu'il y a plus de musiciens, mais des artistes, je sais pas s'il y en a plus.
Mais c'est paradoxal, si tu dis, il y a le côté plus pop qui vient, etc. En théorie, c'est pour plus vendre et qu'il y ait plus de rentrée d'argent, en théorie, tu vois.
Ouais, mais je sais pas.
Sauf qu'il y a un truc bizarre avec les. Enfin, pour avoir fait les deux, moi, il y a un truc que j'ai toujours pas compris avec l'économie de la pop. Après, je pense que ça dépend où est-ce que tu es. Si tu joues avec des artistes qui sont en développement ou quoi, ou si tu es avec des restars. Mais j'avoue, les salaires, franchement, moi, ça me fait. À chaque fois, j'ai fait de la pop. J'étais là, mais attends, mais c'est pas possible, en fait. Où va l'argent, en fait? Enfin, si, tu sais, il y a plein de petites abeilles autour de la reine-mère des abeilles, tu vois. Mais j'avoue que moi, ça me fait bugger. Même, tu vois, les potes, quand certains me disent combien ils sont payés avec des énormes stars, et je suis là, mais waouh, en fait, t'as un cachet, Genre, en fait, à jouer du jazz, bah, t'es mieux payé,
ouais.
quoi.
Ah ouais, c'est ouais, à ce moment-là.
Tu vois, ouais,
mieux payé dans le jazz
curieux.
Que dans la pop.
C'est fou.
C'est trop bizarre.
Alors qu'on a dit que t'étais quand même mal payé dans le jazz, là, juste avant.
Mais donc, en fait, c'est pas mal payé, c'est juste que. En fait, c'est pas mal payé, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de place.
Toi, Adrien, tu connais bien, tu dois certainement bien connaître l'écosystème de la pop aussi.
Les grilles de salaire.
Non,
on veut du chiffre. On veut du chiffre.
Toi, qu'est-ce qui te fait vivre? Et toi qui, justement, a vraiment un pied dans plein d'univers différents, est-ce que tu observes des différences, tu vois?
Alors, moi, je connais surtout les salaires, les filles dans la musique actuelle, parce que, effectivement, moi, le jazz, encore une fois, j'ai quitté le navire un petit moment. Là, j'en refais, mais bon, après, le Bel Jazz Club, c'est vraiment un projet de luxe. Je vis pas grâce au Bel Jazz Club, heureusement. Moi, je vis de l'intermittence, grâce aux tournées que je fais, notamment, et ensuite, grâce aux directions musicales et aux productions de disques, qui sont pour le coup, des défis beaucoup plus importants. Voilà. Et aussi des droits d'auteur et des droits d'interprète, nous les oublions pas. Ouais. L'aspect des dames et la damie, quand tu commences à jouer sur beaucoup de disques, où est-ce que c'est ou pas?
Oui, bien sûr.
Ouais, on en parlait, ouais.
Mais tu veux en parler peut-être pour nos auditeurs?
Non, mais c'est parce que c'est un peu compliqué. Mais, non, la SACEM, c'est les droits d'auteur et de compositeur. L'aspect des dames, c'est le droit des interprètes, c'est-à-dire quand on joue sur un disque en tant qu'interprète, musicien. Et la damie, c'est la même chose, mais c'est quand on est l'artiste principal. Voilà. Bon, tout ça cumulé crée des flux d'argent.
Et typiquement, quand tu produis par exemple l'album de Philippe Catherine, là effectivement, on s'y retrouve beaucoup plus économiquement que si on était juste venu à l'interprète, tu vois, pour poser quelques guitares ou des trucs comme ça.
Alors oui, et en même temps, ça peut être aussi des process qui prennent beaucoup de temps et qui sont assez énergivores. Mais en l'occurrence, avec Philippe, c'était pas le cas. Mais oui, on s'y retrouve. Oui, mais en même temps, on n'a pas la même responsabilité. On est directeur artistique d'un disque, et souvent, quand on est aussi musicien, parce qu'il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui sont pas forcément musiciens, on a de l'arrangement, voire de la compo sur les titres. Donc c'est
ça des points en plus.
Voilà, c'est intéressant. Par exemple, moi, je suis arrangeur du morceau Nu qu'il a chanté pour les JO.
Ah ouais, parfait.
Donc voilà, on s'y retrouve à la fin. Mais
quand tu veux défendre Bel Jazz Club sur scène, par exemple,
ouais.
Est-ce que tu arrives facilement à monter? Alors, je sais pas si vous faites une tournée. Alors, tu vois, par exemple, est-ce que tu fais appel à un tourneur?
J'ai deux tourneurs, Alias et Dunoz, mais on est 8 sur scène, on est 11 sur la route. Donc il y a très peu de concerts. J'espère qu'il y en aura plus, mais c'est sûr que j'arrive avec un truc qui est complètement
c'est le Wu-Tang, quoi.
complètement à l'opposé de l'industrie.
Parce que ça coûte trop cher, volontaire. En gros,
parce que c'est pas assez connu et que c'est trop cher, on est trop nombreux, les hôtels, le transport, tout. Mais c'est aussi un message que j'essaie d'envoyer, de défendre. Après, je peux me le permettre aussi parce que je fais d'autres choses. Si j'avais que Bel Jazz Club dans ma vie, je serais en trio, en quartet. Je pourrais pas faire autrement.
Mais il aurait quand même deux batteurs parce que.
J'ai deux batteurs.
Parce que...
C'est vrai?
Ouais, j'ai deux batteurs.
Parce que vous avez bien choisi votre musicien parce que c'est quand même un fan de batterie pure. Enfin, l'instrument en lui-même. Il a une passion pour l'instrument.
J'ai beaucoup de backline.
C'est impressionnant.
J'ai des annonces de matos toute la journée.
Il est meilleur que nous en digage de matos, de batterie. C'est impressionnant ce qu'il achète.
J'ai deux batteries.
Ouais, mais voilà les batteries quand même.
Ouais. Ben c'est important en fait on n'a pas parlé de ça, on parlait de production et tout ça, mais l'endroit où on fait la musique ça compte, les instruments qu'on utilise ça compte, les gens avec qui on l'a fait évidemment compte, les ingé-sons ça compte, les micros ça compte, tout ça influence le son d'un disque, donc le backline c'est important. Et moi j'avoue je suis un peu vénère là-dedans, c'est-à-dire que je me déplace avec mon matériel, je prends pas les amplis de location, je veux pas jouer sur les batteries de location, je refuse. Je veux pas, je veux jouer avec mon matériel.
Donc t'arrives avec ton matos.
Un camion rempli de...
Et 11 personnes.
Ouais.
Ouais, ok.
Un fou.
Ouais.
Mais parce que je peux le faire.
Ouais.
Et quand tu travailles en studio, t'as ton propre lieu, t'accueilles ou tu...
Ouais, moi j'ai un studio dans 11e, dans lequel je travaille. Et
Là aussi t'as été pointu sur le matériel.
Ouais, bah ça c'est normal. Ouais. Et après, moi j'aime beaucoup aller à La Frette, un studio dans le 95. Je fais quasiment tous les disques que je fais là-bas. Dernièrement, j'y étais pour le prochain disque de Thomas de Pourquerie.
Bah d'ailleurs, on peut peut-être terminer là-dessus. Chacun vos actus. Anne, qu'est-ce qui va être important dans les prochaines semaines, les prochains mois pour toi?
Bah, il y a Atlantis en tournée.
Ouais. En tournée.
Ah ouais, ouais.
T'as, quel,
est...
T'as quelques dates là importantes prochainement?
Ouais, il y a pas mal de dates, ouais.
Ouais, les gens peuvent aller voir.
Ouais, non, c'est cool. Là, demain, on est à Berlin. Ouais. On joue à la Ferme du Buisson à la fin du mois. On joue au Soul Jazz Festival en juin. On va, alors après, c'est loin, on va au Portugal cet automne, mais cet été, on a pas mal de festivals. On fait Jazz in Marciac, la grande scène, Junas, on fait les Franco de La Rochelle. Ça, c'est trop cool. Il y a plein de super belles dates et c'est cool.
Trop bien.
Et après, bah, je pars la semaine prochaine à la Nouvelle-Orléans. Peut-être essayer de voir un peu ce qui va naître de ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup Atlantis, là, concrètement. C'est assez, pas mal de dates à faire. Et puis, composer, j'ai commencé à composer un peu de musique, là. Donc, on verra où ça m'amène.
Super. Voilà. Dans 2 ans, du coup, parce que c'est ça le...
Non, elle disait parfois qu'elle a pris 4 ans.
Non, là, j'ai décidé que j'allais y aller vraiment tranquille. Ah, mais bon, je dis ça, je suis un peu... on verra.
Dis-toi, les grands projets. Ouais.
On levait le plus, il nous a dit.
Un truc solo.
Plus,
ouais.
C'est ça. On commence l'écriture d'un disque, je crois, sous mon nom. Je crois. Enfin, on va essayer. Hein, parce que ça, on n'y arrive pas toujours, hein, en vrai. Ça va être un vrai test.
C'est vrai.
Et tu vois, ce syndrome de l'imposteur dont tu parlais là. Là, je vais me confronter à ce truc-là et voir jusqu'où ça va. On écrit aussi le deuxième album de Bada Bada. On est en plein dedans. On a déjà pas mal de morceaux et on s'amuse bien à le faire.
Mais c'est qui on? C'est
Bada
toi
Bada.
Et
Bada Bada, c'est Lilian Mille, Léo Fumagalli et moi. On
d'accord.
est tous les 3.
Non, mais pour ton projet Tiss solo.
Bah justement, ça va être. En fait, c'est ça. Ça va être moi là pour l'instant et peut-être. Enfin non.
Parce qu'il y a un on un peu de royauté quoi. De.
Non, mais c'est qu'il y a des gens.
Tu parles de toi à la troisième personne ou c'est quoi?
J'ai dit on pour Tiss plus.
Ouais.
En fait, c'est qu'il y a des gens qui m'aident à le faire quand même.
Ok. Okay.
Et on est en pleine négociation de savoir qui va le réaliser avec moi. C'est pour ça que je peux pas encore.
Ok.
Tu vois, c'est une sorte de soupe. J'ai appelé un copain à toi.
Ah ouais.
Ouais bah sympa. Oui. Tu te doutes bien. Tu m'as déjà vu avec lui. Mais on va voir. Il est cher.
Pourquoi tu réalises pas toi?
Bah en fait ça va être un mélange de ça. C'est-à-dire qu'à la fois en fait les skills que ça demande je les ai pas et donc c'est l'idée de est-ce que je me mets à d'abord apprendre les skills pour le faire ou est-ce que je trouve quelqu'un qui les a déjà et on avance tout de suite tu vois et je les donc ça va être un mélange des deux je pense tu vois il y a okay.
Du coup tu composes et après il y a un réel qui
c'est les tout en même temps c'est-à-dire que moi je suis pas trop dans la composition d'abord puis la réalisation je préfère produire tout de suite des idées tu vois et voir yes, tu okay. vois et c'est ça qui m'inspire plutôt. Mais je trouve en fait jusqu'à maintenant j'ai pas voulu le faire parce que je trouvais que j'avais pas grand chose à dire à défendre en tout cas. Et justement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais avec ces voyages à la Nouvelle-Orléans, j'ai une nouvelle perception maintenant de notre société en France, de ce que j'ai vécu en tant que métisse, en tant que... Et donc, il y a des choses là-dedans où je m'y retrouve maintenant et j'ai envie de parler de ces choses-là, tu vois. Et donc, voilà, maintenant, j'ai des idées, quoi, dont j'ai envie de débattre, en tout cas. J'ai envie de poser ces questions-là à travers ma musique.
Entre la Nouvelle-Orléans, la paternité, je pense que je ne trahis pas de secret.
Ouais,
enfin,
ouais,
tu vas avoir des trucs à dire.
Ouais, trois trucs quand même.
Écoute, on va voir comment ça se traduit. Ça peut se traduire différemment aussi.
Les municipales.
La politique, ça se trouve, ça sera de la politique. J'aurais adoré, on va faire de la politique.
Eh, pourquoi pas. Il y a bien cet album de Sébastien Tellier, Politics, par exemple. Bon, toi, Adrien, on a parlé un peu de les contrebandes.
J'ai une résidence pour les concerts.
Ah
juste
oui.
À la Petite Halle, voilà. J'ai des concerts à la Petite Halle jusqu'en juin. Voilà.
Parfait.
Moi, Bel Jazz Club, le 17 avril, au Printemps de Bourges.
Très bien.
Allez.
Ça va être cool. Sinon, je finis la réal du prochain disque de Thomas de Pourquerie. D'autres directions musicales à venir, je peux pas dire. Contrebande.
C'est quand la prochaine date du coup?
C'est la semaine prochaine.
Ok.
Donc ce sera passé. Mais en gros, c'est quoi? C'est une fois par mois, c'est ça que tu nous as dit?
Une fois par mois, ouais.
La semaine prochaine.
Il y a un Insta, c'est ça? On peut trouver ça sur Insta.
Contrebande.s.
Quel jour?
Ils sont en train de se faire leur petit s'y passera. Bon,
c'est chaud pour les passer aussi.
Bah ouais.
Et je vais faire un autre disque aussi.
Ah.
Je me suis imposé pour le coup, peut-être sûrement stupide, mais c'est, je sais pas si j'arriverai à garder ce cap, mais de faire un disque par an.
Ah ouais.
Ça va. Ça va.
Je vais en faire encore, je vais en faire un autre cette année. Je sais pas sous quelle forme.
Jazz ou.
On verra.
Ouais. Ça veut dire non, ça.
Non, ça veut rien dire. C'est que on sait rien. Tout simplement parce que je veux pas plomber l'ambiance, mais je me dis que en vieillissant, finalement, c'est un peu notre héritage de laisser des disques. Et je prends trop de temps à faire des disques et ça me saoule en fait. Et je trouve ça dommage. Donc,
je m'as pas appelé pour ce disque.
Faut que je me force à à être encore plus productif, plus créatif. Et j'ai repris des études aussi d'orchestration pour apprendre des nouvelles choses et peaufiner mes skills pour, si possible, faire de la musique de film.
Trop bien, trop bien.
Quelle image.
D'ailleurs, Thys, Anne, vous bossez beaucoup vos instruments, vous essayez de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, comme peut faire Adrien.
Ah, s'il faut se renouveler. Moi, je prends, typiquement, quand je vais à la Nouvelle-Orléans, je prends des cours.
Ah ouais?
Ouais, je prends des cours. J'ai pris des cours avec Arlene Riley, qui est un batteur historique de l'histoire du jazz. Je suis allée voir Shannon Powell aussi, qui m'a montré tous les trucs de vraiment mes early jazz à années 20 avec les woodblocks et les machins. De temps en temps, à Paris, je prends des cours aussi avec des batteurs que j'aime. Là, je me fais une formation à Ableton Live.
Ok.
Voilà. Et après ça, j'aimerais bien faire une formation de son parce que ça me fait vraiment triper. Le travail du son, donc
son genre ingé
ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça, apprendre à faire du mix après voilà, au moins mais je me rends compte que en retournant à la Nouvelle-Orléans la première fois en 2024, je m'étais vraiment mise dans une posture d'étudiante et d'être en constant apprentissage.
Oui.
Et du coup ça a réveillé un truc chez moi, un rapport un peu presque moi, j'ai toujours eu ce rapport-là à la musique presque enfantin. Tu vois, tu regardes le monde avec les yeux. Et ça m'a réveillé ça, mais encore plus fort. Et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'avancer. Voilà, là, en ce moment, je me questionne à reprendre des cours de piano. Enfin, c'est aussi le fait d'avoir un peu plus de temps. J'ai envie de grandir, quoi.
Trop bien, ouais. Trop bien d'avoir cette démarche.
C'est beau, ce
moi, j'étudie la batterie presque tous les jours, quoi. Là, avec l'enfant, en plus, j'arrive à le faire et tout, parce que ça m'a apporté un cadre, le fait d'avoir fait ce congé, enfin, j'ai fait 3 mois sans travailler, donc ça m'a donné de l'espace pour repartir là-dedans. Et pareil, à la Nouvelle-Orléans, j'étais en apprentissage direct. Et j'avoue qu'en arrivant en école de jazz assez tard, ça m'a mis dedans, parce qu'avant, je n'étudiais pas, en fait. Et j'ai appris à étudier, et c'est assez passionnant. Donc, à la fois, j'étudie la batterie tout le temps, et j'aimerais, pareil, me mettre dans le piano, me plonger là-dedans pour l'aspect plus composition. Quoi.
Et vraiment prendre des cours de piano?
Oui.
Très bien.
C'est bon, on a
c'est
trois
super
artistes
conclusion.
Qui sont constant apprentissage.
C'est être musicien, c'est être artiste, ouais. C'est apprendre, se former, ouais, faire appel aux autres pour nous aider à évoluer.
Si on s'arrête d'apprendre, on est mort, en fait. Ouais.
Ah, c'est beau. Ouais,
c'est vrai.
Super. Ouais. Là, ce que je propose, c'est, parce qu'on doit vraiment libérer Anne, ouais. Notamment. Normalement, on a des recommandations. On squeeze les recommandations pour une fois.
Yep.
Un grand merci Anne Passeo, Thys Rodriguez,
merci
Adrien Soleiman. J'espère que vous avez passé un bon moment.
C'est super.
Ouais,
génial.
Tant mieux. Et puis merci évidemment à la bouclette,
ouais.
Sam, Iris, Flav qui ont fait la technique.
Exactement.
Merci à François évidemment aussi pour le montage.
Pour le montage.
Thoman, grâce à qui on fait cette émission.
Bien sûr.
Vous avez déjà vous avez tous acheté déjà chez Thoman.
Oui.
Tous les jours.
Je continue pas tous les jours.
Moi c'est fini. Moi j'ai arrêté.
C'est vrai. C'est pour plus d'argent.
J'achète en France maintenant.
Merde, il fallait pas dire ça.
On arrête.
Il fallait dire j'ai arrêté d'acheter tout court.
Non mais tu sais, Daz, rassure-toi. Quand il verra qu'il y a plein de trucs qu'il ne trouve pas dans les catalogues des magasins français,
oh,
il retournera chez Thoman.
Bien sûr.
Quand il verra
sûr.
Que le service client est tellement meilleur chez Thoman.
Bien sûr.
Non, et puis surtout, un grand merci à vous qui nous écoutez. On espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 15 jours. Nouveaux sujets, nouveaux invités.
J'espère.
Et ce sera forcément bien.
Évidemment.
Ciao.